RMC.
Bonjour, faut pas arriver le matin, manger un bar au chocolat, faire l'entraînement et manger le pizza à 13h.
Vu qu'en plus ils avaient commandé les pizzas pour 20h, ça veut dire juste au bout des 90 minutes, donc ouais, je pense qu'ils nous ont pris un peu de haut.
Moi je me pose dans mon canapé avec ma pizza et ma bière pour me régaler.
Pitié, on a déjà eu cette discussion mille fois, il n'y a pas de c'est correct en matière de pizza. Viens pas me parler du pizza de ton quartier.
Jusqu'à minuit, l'after foot en direct du Maroc.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, c'est l'After sur RMC en direct, également sur After Foot TV, bien sûr, l'After premier podcast de France, l'After première radio de France le soir, comme tous les jours avec vous. Nous sommes ce soir en direct du Sismix à Marrakech pour trois jours d'After exceptionnel avec nos amis du Winamax FC qu'on va vous présenter dans quelques instants. Daniel est là, Daniel Riolo, bonsoir.
Bonsoir les amis.
On a ramené Kevin Diaz parce qu'il paraît qu'il progresse au poker de dingue. C'est l'homme de l'année, hein, Kevin. Il progresse au foot, il progresse au poker.
Pour un tournoi, donc il est venu parce que j'allais dire.
Salut Kevin.
Cette table, il n'y a pas de joueur de poker à part moi, bon, et Kevin qui est débutant, mais il est là.
Bien meilleur que Daniel.
Et les titus du Winamax FC, ils sont là, pas tous, hein, parce que vous êtes une bombe là. On a un panel, Daniel, ouais, Kevin, de qualité.
À base. Alors, il y a du joueur de paddle.
Un vrai joueur de paddle.
Il y a un vrai joueur de paddle, parce que j'ai finalement enfin appris qui était le meilleur joueur de paddle de la bande.
C'est qui?
Parce que moi, je pensais évidemment que c'était celui qui parlait le plus de paddle qui était le meilleur.
Kevin.
finalement, j'ai appris que c'était Thomas le meilleur.
Alors, Walid Acherchour, bien sûr, qui appelle Fabrice Fiorès de la bande, parce qu'il a fait PSG et OM. After et Winamax FC.
On est en derby, on est en...
Salut Walid.
Il y a une rivalité entre l'After et le Winamax FC.
Une battle, quoi. On va débattre. On va expliquer un peu le concept. Sofiane Zouaoui, qui, évidemment, a aussi fait partie de Génération After et
bien
qui est un taulier.
Thomas, pourquoi Thomas, il n'a pas le droit, Thomas?
De quoi?
Il n'est pas dans Génération After, Thomas.
Il est déjà venu, Thomas, dans l'After.
Il fait l'After.
On parlait Ligue 2.
On parlait même mon livre de la Ligue 2.
Oui. Thomas, bon avant. Salut Thomas.
Salut à tous. Comment ça va? Très heureux d'être là.
Salut les gars.
Alors les gars,
si Tidjani et Elton qui sont restés à la maison parce qu'il n'y avait pas de budget.
Ah bah les mecs, non, mais c'est vous qui avez fait la sélection, il y a des réservistes, il y a des réservistes.
Et également,
c'est Sofiane qui a décidé.
Najim, c'est pas une question de budget pour Najim et Yanis, c'est autre chose. C'est une question de qualité.
C'est des choix d'hommes.
Il y a des choix à faire, on les a fait.
Choisir, c'est éliminer.
Alors si on est ensemble.
C'est nous qui vous accueillons quelque part.
Ah ouais,
ouais. C'est nous qui payons tout ça.
C'est la grande maison Winamax.
C'est nous qui.
Par contre, le plateau, ça fait très très Koh-Lanta, un mix entre Koh-Lanta et l'île de la tentation.
Alors là, il faut aller sur After Foot TV, il faut aller sur YouTube, sur le Twitch du WFC également.
Une décision à la fin de l'émission, on repart ensemble séparés.
On a cassé les codes de la radio là.
Ouais,
c'est vrai. Voilà.
C'est-à-dire que là, c'est plus la table avec les micros posés. Là, on est en mode marocain, magnifique salon.
Le thé à l'amande parce qu'il est pour le décor. J'ai vu la théière, mais il n'y a pas le thé dedans. Il faudrait
le commander quand même, Gilbert.
Et puis la référence à Koh-Lanta, très bien la référence à Koh-Lanta, parce que on a le boss de Koh-Lanta qui est là. Mundir, il peut venir à la fin.
C'est vrai, ça, c'est vrai.
Quelle indignité.
Koh-Lanta, si on veut.
Pourquoi?
Moi, je l'ai dit tout de suite, je vote contre Walid.
pour ça voler tout à l'heure directement dans le filet à 15.
Alors, les gars, expliquez-nous le concept de Winamax FC. Après, on va expliquer pourquoi, parce qu'on est tous réunis ici.
Allez, Sofiane.
Winamax FC, c'est une émission créée par Winamax essentiellement sur le football depuis 2018, qui est montée petit à petit, qui nous a permis de construire une bande autour du football, qui mêle de l'expertise, mais aussi beaucoup d'humour, beaucoup de second degré. Et on a monté ça avec, bien sûr, Thomas, qui est le présentateur phare, Walid Acherchour, Elton Mokolo, Walid qui est venu après chez vous, Elton Mokolo, Najim Medini, Yannis Yemi, Romain Bédouk, notamment Elton Mokolo, bien sûr, Tidjani Mbo, évidemment. Et donc.
J'ai dit trois fois.
Ouais,
c'est vrai. Il y a
Tidjani Mbo également qui est venu. Elton Mokolo, bien sûr.
Il y a Najim
donc, bien sûr, nos inspirations, vous faites partie aussi de nos inspirations. Et nous, l'objectif, c'est de parler de football de manière détendue entre copains. Et je pense qu'on le fait de mieux en mieux.
On n'est pas tous potes non plus. Hein.
Voilà, on n'est pas tous potes.
Elton rappelle souvent qu'on est des collègues de travail.
Et
l'objectif, c'est aussi de prendre la place des grands.
Exactement.
À un moment donné, quoi.
Donc l'objectif, c'est quand même là on vous invite, mais on vous crèvera à la fin de l'émission.
Non, franchement, c'est Coupe du Monde 2030, je l'ai déjà dit.
Ah oui, d'accord.
Non, mais
c'est l'artiste. C'est à vous.
Ça nous fait
Benzema,
plaisir.
Toi qui es supporter l'année, Benzema qui avait dit ça à son premier entraînement, non?
Bien sûr, avec beaucoup de respect.
Je suis pas là pour.
Absolument. Beaucoup de respect. Non, au-delà de la blague,
c'est. Il dit ça à Eugène Cabongo, mec, c'est sûr, il est parti à la retraite 2 jours plus tard.
De partager cet événement avec vous, et on remercie bien sûr tous ceux qui sont en régie, en technique, pour nous permettre de faire ça avec vous.
Oui, parce que l'idée, c'est de confronter un peu les avis, de voir comment vous voyez le foot. Tout à l'heure, vous allez nous parler du PSG, par exemple.
Si on les connaissait quand même un peu.
Je dévoile pas tout.
C'est pas comme si on se connaît depuis ce matin.
Alors, mais évidemment. Mais la communauté du WFC n'est pas forcément la communauté de l'After, et donc on veut partager tout
même
ça ensemble.
Si ça peut.
Il peut y avoir quelques cousinages.
Je pense qu'il y a 2-3 couloirs quand même.
Alors pour ceux qui ne connaissent pas le Winamax FC, on a quelques extraits à vous faire écouter.
Ah. Latéral droit ou right back en anglais. Right Walid, regardons ce que ça donne.
Il peut dépasser la ligne médiane.
Tout à fait Walid. Il peut dépasser la ligne médiane et se trouver dans ce type de position.
Il a le droit.
Mais ça, Walid, pour nous, c'est du jamais vu en équipe de France.
Je suis sur le cul, j'ai beaucoup critiqué Deschamps. Sincèrement, je suis le premier à le faire. Mais là, il se réinvente.
Hein. C'est Sofiane. Messi fait ses débuts en Ligue 1.
Ouais, c'est de la merde.
Tudor qui n'est pas viré.
C'est ouf.
Et Sissoko qui sera rappelé.
Ah, c'est ouf.
C'est ouf.
Si cette saison, c'est ça, c'est une belle saison.
C'est de la merde en boîte.
On bascule dans le prime, Walid, avec ce spécial zone interdite avec Anthony Lopez. Ça sera un rendez-vous très fort chaque semaine avec le gardien de Lyon.
Moi, je viens d'apprendre ça. Vous m'avez pas prévenu. Et ça, c'est vrai que je suis un peu sur le cul. Sofiane critique souvent M6 sur les matchs de l'équipe de France. Et là, ça fait rêver quand même.
Bon.
Prendre le contexte, c'est un peu moins marrant.
Mais ça remonte. Non, mais ça marche.
Il dépasse pas la.
En gros, à l'époque, le latéral côté Didier Deschamps, c'était des latéraux qui montaient très peu. Ouais. Et en gros, on avait expliqué, je sais pas quel joueur d'ailleurs.
Avec Benjamin Pavard ou Moukielé, je crois.
Moukielé. En gros, on lui expliquait qu'un latéral droit, il pouvait dépasser le milieu de terrain et aller proposer.
Et en fait, avec les images, il avait fait une espèce de montage en disant, regardez, il explique comment un latéral droit peut monter.
Est-ce que sérieusement, c'est une question sérieuse, est-ce que vous l'avez déjà connu ce truc-là?
C'est-à-dire?
Parce que moi, je l'ai connu.
De quoi?
Parce que ça a été réellement, ça a vraiment existé.
Un latéral droit qui monte?
Football. Non, qui monte pas. Moi, quand je suis, je suis plus vieux que vous, moi, quand je suis jeune, Kevin, je sais pas si toi t'as connu ça, peut-être pas, mais moi, en minime, il est arrivé que je joue arrière droit. Au club, on me disait, tu ne dépasses pas.
C'est souvent le moins bon qui joue latéral droit, quand même.
Alors, c'était en fait, c'est quand
tu joues numéro 10. Ouais, un truc que je comprends pas.
Enfin, il avait le 10, mais il jouait latéral droit.
Il va nous inventer un rôle hybride.
Raconter, mais c'était quand je jouais.
Ah, c'était le Alexander.
Il y avait certains dimanches, il me prenait dans les 1.
Ah, mais t'étais le Alexander Arnold de ton équipe.
Cancelo,
ouais.
Et puis, c'est latéral, il finissait numéro 1.
Non, mais tout ça pour dire, ça n'existait pas. On était dans un.
C'est pas une question de pied.
Francilien, toi, Harris et tout. Putain, mais t'étais là. Jamais quoi.
Rien à voir avec la vitesse que tu pouvais avoir à l'époque.
L'éducateur, enfin le gars qui nous servait d'entraîneur et tout. Putain, mais tu te faisais.
Je pensais le poste.
Tu prenais un air dryer si ton pied passait la ligne.
Je pensais le poste qui a le plus évolué sur les dernières années.
Il avait déjà évolué à l'époque. Tu sais, il y avait déjà Amoureuse dans les années 80. Il y avait eu des arrières gauches un peu.
Et je pense que Klopp, avec Alexander Arnold, vraiment, il le fait basculer.
Après, ça reste quand même un truc qui est très très intéressant.
Il y avait Dunga, référence de Daniel.
Plus de vrais latéraux.
Soit
des défenseurs centraux qui sont reconvertis.
Il y a l'analyse du DS qui arrive.
Soit c'est des ailiers qui sont reconvertis à ce poste. Mais honnêtement, même à tous les niveaux.
Non, mais ça traduisait la division du foot.
Mais c'est très difficile aujourd'hui, au plus haut niveau, d'avoir un vrai latéral gauche ou un vrai latéral droit. T'as Alexander Arnold, mais en fait, c'est un contre-attaquant. Et après, t'as des joueurs.
À partir du moment où tu parles d'une évolution et d'un dépassement de fonction, qu'est-ce que ça veut dire, un vrai?
C'est un mec qui sait attaquer et défendre.
Il y a déjà
Aujourd'hui, t'as surtout des mecs qui savent attaquer et défendre.
Il y a déjà 15 ans, on disait Jordi Alba, c'est pas un vrai. En quoi c'était pas un vrai?
Non, mais
Maldini, c'était un vrai ou c'était pas un vrai?
Pour moi, oui, c'était un vrai.
C'est un vrai arrière gauche.
À la base,
il montait énormément.
Oui, mais il peut jouer central gauche, il peut jouer ailier gauche.
Après, il s'est recentré.
Les grands joueurs. Mais Lizarazu, c'est un vrai. Lizarazu, c'est un vrai. Sagnol, c'est un vrai. C'est des mecs qui étaient durs défensivement. T'avais pas envie d'être contre eux. Et offensivement.
Excellent centreur, Sagnol.
Il avait des aujourd'hui, à la base, de grosses qualités défensives.
Mais c'est
Dzeko, il est lié gauche. Hein. Mais ça l'a pas empêché d'être également un bon défenseur.
Il avait cette agressivité. Mais aujourd'hui.
Il y avait le latéral qui pouvait jouer défenseur central et le latéral qui venait d'un peu plus haut.
Thuram,
d'un peu plus haut et qui reculait.
Maintenant, des fois, t'as quatre centraux. Il y a une évolution que. presque, on est au-delà là de la colline. Et maintenant, c'est très difficile de. Aujourd'hui, si je te dis, dis-moi les trois meilleurs latéraux qui sont très bons défensifs et très bons offensifs.
Mais maintenant, on est revenu à une autre forme. Il a raison, Thomas, c'est que
des fois, t'as quatre centraux.
Il y a beaucoup de même d'entraîneurs étiquetés beau jeu, Guardiola, Arteta, qui jouent avec quatre centrales.
On voit quatre centraux.
Quatre centraux, pardon.
Sûr, c'est pas vrai. Très rôle.
C'est pas.
Centrale.
Bienvenue chez nous.
C'est pour ça que l'idée de vrai ou pas vrai, je la refuse un peu. C'est parce que en fonction,
voir quatre défenseurs idéal, quoi.
Et de l'évolution du foot, à des postes qui ont bougé. C'est pas un vrai ou un pas vrai.
Bon.
Et pour revenir,
ça nous permettra de parler. Luis Enrique, parce que les latéraux, c'est pas.
Et pour on sera tout à l'heure après 23h.
Là, c'était pas drôle du tout, comme ça, oui. Sans contexte. Mais c'est Sofiane Zouaoui qui a ramené ça dans le WFC. En fait, vu que lui, il était très très drôle sur Twitter, il a voulu amener ça sur les émissions en créant, en fait, du troll avec beaucoup de sketchs. Et c'est ce qui a fait aussi le succès du WFC.
Ça, c'est qu'on enregistrait des sketchs en dehors. Maintenant, on le fait de moins en moins. On part plus sur de l'impro que de l'enregistrement, mais c'est ça qui a permis à l'émission de.
Moi, je regarde le WFC surtout le midi, enfin, c'est l'émission de 13h. Ouais. Et l'émission, en fait, elle commence pas à 13h. En fait. Elle commence à 13h15, 13h20, parce que les 15 premières minutes, c'est du troll et
on raconte nos vies.
C'est de la blague. Bah,
comme là, maintenant, en fait, c'était pas prévu ce débat, là, sur les latéraux. Donc, c'est ça le crossover after WFC. Dans un instant, on va démarrer avec l'actu marseillaise et on va parler de Rabiot parce que là, des infos à vous faire partager. Et puis, il faut qu'on revienne 24 heures plus tard sur ce qui se passe au club à Marseille, sans oublier le reste de l'actu du jour. Et puis on aura des invités d'ici minuit, puisque ici au Sismix, il y a pas mal de footeux ou d'ex-footeux qui sont là et qui viendront nous rejoindre.
Et contre toute attente, il est en train de
plus l'invité est présent tôt.
Daniel, t'es sûr que c'est contre toute attente ou il y a peut-être quelque chose de paranormal autour d'Éric Roy?
Écoute, Éric Roy,
nous un petit peu.
Vous savez qu'il joue au poker.
Oui. Mais il joue bien, tu nous as dit.
Deux, trois parties avec lui.
Oui.
On va dire que sa principale qualité, c'est d'avoir de la chance.
Ah, d'accord.
Là, il est en train de montrer autre chose.
C'est comme avec Brest.
Ah, véritable révélation.
Ah, c'est intéressant. Ah,
d'ailleurs, tu peux prendre les informations. Enfin, je pense que Jérôme Alonso, qui est un de ses meilleurs amis et qui joue beaucoup au poker avec lui, va avoir du mal à digérer la performance d'Éric Roy ce soir parce qu'il s'estime un joueur nettement supérieur à Éric. Et ce soir, il met tout le monde d'accord.
Il est en top fort.
Hey, non, mais franchement, il a très très bien avancé dans le tournoi. Il va nous claquer une perf.
Allez, l'OM au programme dans quelques instants. On se retrouve tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot en direct du Maroc.
Gilles Darbribois.
Avec Kevin Diaz et avec nos amis du Winamax FC qui sont là avec nous au Maroc. Tout à l'heure, on va voir du PSG avec l'avis du Winamax FC. On verra si l'after est en phase. Mais pour l'instant, c'est l'OM. Juste après un détour par des directs, on a deux matchs ce soir. Il y a City qui joue un match important pour la qualif en Ligue des Champions et qui mène 2-0 face à Bournemouth après 56 minutes. Et puis.
Très bien.
Comment t'arrives à suivre ça, toi? Il est fort, ce Walid.
Non, tu le dis très bien.
Ah, je le dis très bien. J'avais compris, il joue très bien.
Ah, non.
Ouais. C'est fou quand même. La licorne, là, dans la licorne, il suivait le match tout à l'heure.
Et puis Boulogne-sur-Mer, Clermont, ça c'est un match qui passionne Daniel. C'est les barrages allés d'accession en Ligue 2 ou de maintien. Un partout.
On a toujours un peu d'affect avec Boulogne.
Ah, on a fait une émission légendaire à Boulogne, nous. Alors, on a été reçus comme des rois il y a quelques années
soir,
à Boulogne.
Je veux pas que ça gagne ce soir.
C'est l'époque de Pujol, non?
Époque Thiel, Périnel.
Thiel, pardon. Pujol, c'est Valenciennes.
C'est une très belle publicité pour notre émission.
Sofiane, ça fait 15 minutes que l'émission a commencé.
Le Winamax FC, bienvenue.
On fait un très beau premier quart. De moins en moins d'émissions, Sofiane. Il est vraiment dans les coulisses, dans la prépa, dans les plannings.
On m'a dit viens, mais moi, je serais bien resté à la piscine.
Mais dans la vision, en fait.
Boulogne qui était en National 2 il y a encore 2 ans.
T'as un lien avec la National 2, je crois, de Kevin, non?
Toi, t'es National 2, tu connais?
Pardon, qui
on n'a pas beaucoup parlé cette année.
En National 2 il y a encore 2 ans.
Tu connais la National 2, toi?
Non, je sais pas, t'en parles jamais, donc ça peut être bien d'avoir un petit point là-dessus.
Non, on verra ça l'année prochaine.
D'accord. Bon, l'OM.
Elle est clairement.
L'OM, les gars, parce que le 32-16 est ouvert, si vous voulez en parler avec nous. Est-ce que Rabiot ne devient pas l'enjeu numéro 1 du mercato marseillais? Pourquoi? Parce qu'on apprend aujourd'hui qu'il aurait une clause pour partir pas cher. Donc en gros, il a la main sur son avenir, Rabiot. Et encore hier, dans les conférences de presse et interventions de Benatia, Longoria, on faisait de Rabiot l'élément central de l'OM d'aujourd'hui. On va d'ailleurs réécouter Mehdi Benatia sur le sujet et ensuite chacun pourra donner son avis.
Joueur comme Rabiot aujourd'hui, il est fondamental. Mais j'ai pas besoin que ça vienne de l'entraîneur ou de quelqu'un d'autre pour savoir que Rabiot, c'est peut-être le joueur le plus important aujourd'hui de mon projet. Même pas spécialement le joueur, je parle de l'homme aujourd'hui. Quand tu prends un Rabiot, un Hochberg, ce qu'ils t'ont donné aussi dans le vestiaire, parce que vous voyez les matchs, et ceux qui te font gagner les matchs, c'est aussi les mecs de vestiaire. Et des mecs comme ça, aujourd'hui, on a besoin de personne pour savoir que on doit tout faire pour essayer de les garder.
Alors, on ne va pas mettre la panique parmi les supporters marseillais, mais enfin, tout de même.
Bah, de toute façon, l'année dernière, quand il vient, y a une forme de pari de la part de l'OM, parce qu'en gros, ils prennent un joueur qui est hors statut pour eux, qui n'est pas de leur standing en termes de salaire. On va dire que logiquement, ils n'auraient pas pu avoir Rabiot. Rabiot vient avec ce que les footeux appellent un sacrifice financier, ce qui pour nous est pas réellement, c'est une notion un petit peu particulière à comprendre, mais pour eux, oui. Donc il vient avec une baisse salariale, mais en mettant des clauses. Si en gros ça s'était mal passé, il avait pas envie de finir dans un bourbier, on va pas en Ligue des Champions, ça se passe mal, il y a une crise ou quoi au caisse, donc il a mis des clauses pour éventuellement partir. Il se trouve que ça s'est très bien passé, que Rabiot a été un des meilleurs joueurs de l'OM, top 3 cette année dans le club, sans problème.
Top 1. Top 1 Rabiot.
Oh, moi si tu veux, top...
Oui. Top 3.
Si tu veux, top 3, allez. Bon,
top 3, mais pas 3e, quoi.
Ouais. On va dire qu'il a été extrêmement important et qu'à l'arrivée et au final, quand se termine cette saison, évidemment que l'OM a envie de continuer avec lui. Mais les finances de l'OM, elles ne se sont pas fondamentalement améliorées, si ce n'est qu'à la Ligue des Champions. Et cet argent-là, il va falloir également s'en servir pour recruter. Donc Rabiot ne peut rester que s'il y a valorisation de son salaire et qu'on revoit son contrat. Et c'est là qu'il va y avoir des discussions. Le club a envie qu'il reste. Lui, je pense, veut également rester, mais pas au prix de l'été dernier.
C'est plutôt logique, c'est que l'année dernière, il y avait une opportunité pour l'Olympique de Marseille de faire Rabiot le 16 septembre, je crois qu'il signe mi-septembre.
Le jour de mon anniversaire, exactement.
Ouais, mi-septembre. Donc à ce moment-là, belle information.
Mais c'est important.
Thomas, elle est très importante dans l'analyse.
J'étais à table ce jour-là.
Mais à ce moment-là, donc l'OM peut faire Rabiot à un prix... défiant toute concurrence à ce moment-là, à un salaire surtout, défiant toute concurrence, avec des échanges qui ont été très très faciles avec madame Rabiot, qui avait surpris à l'époque, parce que à chaque fois le milieu explique que c'est très très dur de négocier avec la maman de Rabiot, sauf que là en fait la donne elle a changé. Il y avait eu un deal gagnant-gagnant entre Rabiot et Mehdi Benatia, et on sait qu'ils ont une vraie relation fusionnelle entre les deux, et on le voit hein, quand il en parle à chaque fois, et la même chose pour le milieu de terrain français, sauf que là à la fin de saison, bon, il va falloir se remettre autour d'une table, et là les négociations c'est plus la même chose, parce qu'il a un an de la fin de son contrat. J'ai vu une info circuler comme quoi apparemment il avait une clause pour partir libre, ça c'est faux, mais par contre le deal c'était que s'il y avait...
Alors on n'a pas le montant de la clause éventuelle de...
S'il y a une offre raisonnable, départ, ouais. Ils ne demanderont pas des milliards pour Adrien Rabiot. Donc si Adrien Rabiot demande un très très gros salaire, parce que la question du soir c'est... est-ce que l'OM doit tout faire pour garder Rabiot? Ils ne pourront pas tout faire pour garder Rabiot. C'est soit Rabiot fait un pas, encore une fois un geste plutôt raisonnable pour s'inscrire dans la durée...
Ouais. Et Benatia a dit hier qu'il voulait l'équilibre des salaires dans le vestiaire.
La masse salariale pour Rabiot, ils pourront pas faire.
C'est vrai que le mercato,
ils veulent pas assumer ça. Et
raison, je trouve. Moi,
ils peuvent pas déséquilibrer tout le vestiaire en faisant de Rabiot un joueur complètement à part. Il a été bon cette année.
C'est le seul joueur à part de l'effectif.
Il y a aucun problème. Mais là, va.
Thomas voulait la parole. Ça, c'est comme ton after. Faut que tu ailles, mon gars. Sinon,
les deux matchs par semaine, c'est autre chose. Va être demandé à Rabiot. Donc. Se mettre le couteau sous la gorge, grosse pression.
On va pas se mettre le couteau sous la gorge.
Mais s'il demande 6 millions, Kevin, s'il demande 6 millions, ils pourront pas lui donner.
Et le problème, c'est que l'OM lui donnera pas.
Ils ont pris combien Brest en Ligue des Champions?
L'OM lui donnera pas, Kevin, c'est tout ce que je peux te dire.
Mais c'est vrai que tout le monde est excité par le mercato de l'Olympique de Marseille. Moi, je pense que ça va être un des clubs qui va nous faire travailler cet été. Mais je pense que pour démarrer ce mercato et que l'OM démarre ce mercato intelligemment, il y a deux dossiers à gérer. C'est des gens qui sont déjà au club. Rabiot, parce que lui peut conditionner tout le reste de ton mercato, donc déjà gérer ce dossier en premier, et de Zerbi, où à chaque sortie qu'il peut y avoir de son côté...
Zerbi, c'est bouclé.
Oui, mais il faut quand même que ça soit acté, que ça soit communiqué, je pense,
et puis pour
Rabiot, conditionner un mercato intéressant.
Quelque chose, pour que réellement...
D'ailleurs là, ils sont dans l'avion pour aller voir Franck McCourt.
Exactement.
Longoria, de Zerbi... Et Benatia
aux États-Unis.
Il y a pas Ravanelli d'ailleurs.
Ouais, il avait peut-être gratté 2-3
cents.
Attends. Mais déjà,
il faut
quand même également dire que Rabiot, pour qu'il s'en aille, il faut qu'il y ait des offres en Europe.
Et ce que je ferais, c'est que
c'est pas t'inquiète pas ou ton avis, c'est l'avis du football européen.
Je pense qu'il y aura des clashs.
Je sais, ils vont tous téléphoner pour demander.
Pour moi, le débat, je l'inverserais.
C'est le football européen.
Pour moi, Rabiot aurait pas intérêt à quitter l'Olympique de Marseille en fait.
Ça dépend pour quel club.
C'est un autre débat, mais je suis
d'accord.
Pour moi, en fait, on est en année de Coupe du Monde. Il a une Ligue des Champions avec l'Olympique de Marseille, dans une position de leader absolu.
L'envie d'aller en Ligue des Champions avec
et moi, en vrai, je serais. Parce que moi, j'étais.
Si tu es son conseiller, tu fais tout pour trouver un
accord. Moi, je m'en suis jamais caché. Je suis un gros supporter.
Après, sur ce débat-là de Rabiot, je trouve que. Parfois, on peut critiquer la manière de gérer les clauses, notamment de contrat, notamment à l'Olympique de Marseille d'ailleurs. Mais moi, ça me dérange pas cette façon de gérer Rabiot, c'est-à-dire que quand tu le prends, Daniel, tu l'as bien précisé, tu le prends dans une période où jamais tu dois avoir ce type de joueur, même s'il arrive gratuit, t'es sur un club qui ne joue pas de Coupe d'Europe. Donc forcément, tu dois faire une forme de concession. Ouais. Et moi, que t'es ce genre de concession qui aujourd'hui nous pète un peu à la gueule, en gros, c'est.
T'aurais pas un sentiment de gâchis s'il part là?
Peut-être, mais ce que je veux dire, c'est que.
Il vient pour repartir un projet, il qualifie.
Thomas, tu veux que je te dise si jamais il part.
Moi, je suis déçu.
Mais je n'y crois pas.
Je serais pas surpris avec Rabiot. Mais moi, j'aurais les boules.
Je vais te dire pourquoi je ne suis pas déçu. Parce que si jamais il s'en va, ça veut dire qu'ils n'ont pas réussi à trouver un accord. Ça veut dire que ce qu'il avait dit, j'ai envie de retrouver la Ligue des Champions, j'ai passé une année formidable, je me sens trop bien à l'OM, je suis en kiff absolu avec le supporter.
Moi, je serais déçu de Rabiot.
Qu'à l'arrivée.
Moi, je serais déçu de Rabiot. Je serais pas déçu du club. Voilà. Je serais déçu de Rabiot.
Parce que moi, je lui dis, tout ton sinoche pendant un an.
Non, c'est pas un sinoche. C'est juste qu'en fait, pour moi.
Et tu t'en vas. Moi, je suis déçu.
Rabiot a cette image, justement, que soufflait un peu Walid. On n'est pas surpris avec Rabiot. A cette image de tout gérer, qui va un peu à droite, à gauche. Et moi, en fait.
Il a dit à plusieurs reprises. Bien sûr. Cette année. On verra à la fin.
Sa dernière sortie, elle est dans ce sens.
Cette année, il a fait genre, il a fait la déclaration d'amour.
Mais moi, sur la fin, oui.
Il a fait une espèce de.
Après, Rabiot, on le connaît. C'est le
bien. Attention, le latéral droit, Kevin Diaz veut monter. Il va passer le milieu de terrain.
Daniel qui parle depuis.
Toi, tu penses que c'est le joueur numéro 1 et tu serais pas déçu qui parte de l'OM?
Pas déçu. Moi, je serais bien sûr déçu pour l'OM de perdre leur meilleur joueur, parce que pour moi, je le dis depuis le début avec Walid, on n'est pas tout le temps d'accord là-dessus, mais moi, pour moi, c'est le meilleur joueur.
Mais ça s'entend.
Sur et en dehors du terrain.
Le plus important, en tout cas.
Et bien sûr, sur et en dehors du terrain, comme l'a dit Benatia. Maintenant, je comprends aussi Adrien Rabiot. Tu regardes la grille salariale de l'OM. Ok, il est au-dessus, mais.
Savoir ce qu'il veut au bout d'un moment.
D'accord, mais il y a pas à savoir. Qui veut, tu regardes la grille salariale.
Une année de Coupe du Monde, t'as
aucun. 3 du milieu de terrain qui va.
T'es une année de Coupe du Monde, tu sais ce que tu perds, c'est parce que tu gagnes.
Sans déconner, tu crois que tu parles de Rodri là quand même?
Mais non, mais.
Rabiot, il a une cote quand même.
Rabiot, il a une énorme cote.
Tu l'as avec l'équipe de France, etc.
S'il avait la cote dont vous parlez l'été dernier, il n'est pas à l'OM, il est ailleurs.
Est-ce qu'il y a une cote
Ligue des Champions?
Est-ce qu'il a une cote suffisante pour rejoindre un club de Ligue des Champions? Il va pouvoir jouer.
En tout cas, pour moi, ce que je voulais dire, c'est que l'OM doit faire son maximum. Pour garder Adrien Rabiot.
Mais pas une folie non plus.
C'est quoi son maximum?
Je dis pas qu'ils doivent lui donner 15 millions. Mais pour moi, c'est simple. Tu regardes la grille du PSG. Pour moi, il faut qu'il soit payé comme les joueurs du PSG. Aujourd'hui, c'est le seul joueur de l'OM qui peut jouer.
C'est impossible. Mais ils ont pas ce
que je t'ai pas parlé de Dembélé. Je t'ai parlé des milieux de terrain.
Kevin, il y a Longoria qui a mis en avant la rationalité économique. Je veux dire, c'est un club qui bénéficie. Non, mais c'est un club. C'est un club qui. Non, ne parlons pas de. C'est un club qui bénéficie d'un mécène. On est d'accord qu'il y a la possibilité financière.
C'est quand même de la Ligue des Champions, les gars.
D'accord, mais c'est pas ça qui te permet non plus de faire des folies. Il faut qu'il soit rationnel. En effet, c'est un joueur très important. Je pense qu'ils ont des arguments par rapport à cette saison, aussi pour lui faire comprendre qu'il a permis à l'Olympique de Marseille d'arriver en Ligue des Champions, et donc que pour l'histoire qu'il continue avec eux, c'est positif même pour sa carrière de rester dans ce club-là, bien évidemment. Maintenant, tu peux pas non plus aller sur une folie économique.
Il y a deux choses. Pour moi, il y a deux choses. La première chose, c'est que Rabiot, il est en position de force.
Ça c'est sûr.
Qu'on le veuille ou non, aujourd'hui, il a un an de la fin de son contrat. Il a dealé des choses avec la direction. Il est en position de force. Il fera ce qu'il a envie. S'il veut partir, il partira. Ce sera une histoire de sentiment. C'est-à-dire que s'il a envie de continuer à l'OM, il continuera à l'OM, pas à ce prix-là, mais en tout cas en faisant un gros effort. Et l'OM ne pourra pas donner ce que Rabiot demandait à l'Atlético l'an dernier, à United l'an dernier, au Milan l'an dernier.
Toujours se retrouver au milieu entre un club et un joueur.
Et la deuxième des choses, c'est que même s'il est très important, Adrien Rabiot, Kevin. Et tu sais très bien que je suis d'accord avec toi, surtout les échos qu'on a, etc. Tu peux pas faire sauter la banque pour Adrien Rabiot, évidemment. Qui est milieu de terrain.
Évidemment.
Milieu de terrain très important.
Ça, je suis d'accord.
Mais pour moi, quand t'es Marseille, je pense que tu peux ramener un autre milieu de terrain qui sera pas aussi fort, peut-être, que Rabiot, mais tu pourras compenser un minimum.
Moi, je demande à Thomas, il est supporter de Marseille.
Oui.
Sofiane vient de dire, tu peux t'en sortir sans Rabiot.
Je pense que sur ce projet lancé en 3 ans.
Bon, et il y a une question d'image aussi, les gars, parce que là, il s'est rapproché des supporters, il est vu comme le mec.
C'est son problème à lui.
Derrière, là, s'il se barre, c'est le mercenaire absolu.
Non, mais il l'a fait avec le PSG, ce sera pas. Sincèrement,
pas mercenaire.
La différence, c'est que justement, son histoire avec le PSG, c'était pour nous vendre quand j'étais petit, j'étais Marseillais. J'arrive à l'OM, j'ai une histoire d'amour comme j'ai jamais connue. Ne vous inquiétez pas.
Il a dit je vais être le Steven Gerrard du PSG.
Ça, c'est pas le premier et le dernier à faire ça.
C'est pas que ouais, mais, faute. Non, mais de cette façon-là, j'ai trouvé ça un peu risible.
Ce que je veux vous dire, c'est il a fait la comédie avant. Il l'a refait cette année en nous disant cette année, ça n'est pas la comédie, c'est pour de vrai, c'est un amour solide. C'est comme le mec qui a eu 150 meufs et puis il dit,
Non, il a pas été aussi.
Non, mais je suis d'accord, Daniel.
Vous rigolez ou quoi? Vous avez oublié ce qui s'est passé au Parc des Princes quand il est venu?
D'accord.
Ça s'est terminé en procès parce qu'il y a eu les banderoles, parce que ça a été d'un coup.
Il a rien dit.
C'est légitime ça.
Il a rien dit.
C'est autre chose.
Il a rien dit.
Non, mais c'était vraiment
insultant. Sa mère a été insultée.
Ne dites pas qu'il a pas joué.
Définitive avec une ancienne femme. Pour valoriser celle-là,
parce que l'OM, il a fait le Sinjoul. Oui, bien évidemment qu'il a fait comme tous les joueurs de
l'OM. Quand il a eu la comédie de l'amour cette année,
mais comme tous les joueurs de l'OM, il a épousé l'Olympique de Marseille cette année. Maintenant, je dis juste que je suis pas sur le cul. Si pour son dernier gros contrat, il choisit d'aller en Première Ligue ou ailleurs,
peut-être pas sur le cul. Mais moi, je trouverais ça.
Pause.
Et pourtant, Dieu sait si j'en ai vu d'autres qui ont fait ce genre de choses, comme a dit Thomas. Une fois de plus, je trouve ça.
Et pour moi, il y a un enjeu de crédibilité.
Il y a un enjeu. On continue le débat dans quelques instants avec Diego au 32-16.
Et des sentiments dans le football ou pas?
Et ensuite, on reviendra sur ce qui se passe à l'interne au club. Daniel, redescends. Il y a un thé à l'amande qui t'attend.
Ah.
Non, c'est pas vrai. Allez, à tout de suite dans l'after.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot en direct du Maroc.
Gilbert Bribois.
Jusqu'à minuit, donc, en direct du Maroc pour le Sismix avec le Winamax FC. Bien sûr, on débat la situation de l'OM. Tout à l'heure, tu parlais du décor, Daniel. Tu parlais du décor. On casse les codes, là.
On dit que ça ressemblait à un décor de Koh-Lanta. Moi, je vous ai dit, le boss de Koh-Lanta, il est dans les parages.
Bah, il est là.
Donc, il est
venu. Ouais, je suis arrivé en Uber.
C'est Moundir.
Uber tapis volant ici. Hein,
Salut Moundir.
Ça fait très mille et une nuits.
Ouais. Ouais, exactement. Ouais. J'aime beaucoup. Merci pour la dédicace du thé. Moi, je suis très fan. Merci de me recevoir. C'est super.
T'as soufflé dans la lampe juste avant de rentrer?
Ouais,
bah, j'ai tout. C'est normalement.
Veux, moi, ça y est.
Ouais, c'est mélange tous les dessins animés, ouais.
Ouais.
Tu souffles.
Ah, c'est un mix. Hein,
parce que j'ai l'habitude de souffler dans les prises.
Ouais, ouais, voilà. Et
il ça quoi. Souffle dans la lampe.
Et pas emmerdé. Je...
Un souffle.
Et le film, il fait 12 minutes avec lui. Il souffle, ça marche pas.
Il est dans l'ambiance, les mecs. Merci.
Ouais, Moundir.
Super.
Le foot, sinon, Moundir, l'OM, la Rabiot, tout ça, tu...
On va pas faire la tête, non.
J'ai rien dit, moi.
Ouais, non, mais... Ouais, ça fait 10 ans qu'on se fréquente. Alors, moi, j'aime le foot, mais plus particulièrement les grands derbies. Voilà, quand il y a de la tension, quand il y a un PSG-OM, là, bon, bien évidemment, bah, on a un miracle.
T'appelles ça un derby, toi?
PSG... Ah bah oui, pour moi,
c'est... Ouais. C'est quoi ton club?
C'est un peu comme à l'époque, les...
France-Brésil, quoi.
Quand Chicago rencontre Détroit.
Ah ouais.
Au basket. Et alors, le basket, c'est son truc, en revanche.
Ah ouais, non, les cas, là, basket, je
suis... Mais au foot, ton club. On veut ton club.
Mon club, alors, moi... J'ai eu la chance, lorsque j'avais 8 ans, d'avoir rencontré...
Là, ça démarre à la Omar Sy. Il va nous dire Paris et Marseille.
Ouais. Il Belloumi.
Ah.
Eh ouais.
Légende. Ah. Légende algérienne.
Comment tu l'appelles? Il fait moi le nom, je crois que t'as
écorché.
L'acteur Belloumi.
Belloumi,
exactement. Non, c'est
le terrain de Norwich.
Que j'avais rencontré quand j'avais 8 ans avec mon papa, à Mascara. Voilà, grand fan, bien évidemment, de l'époque algérienne, bien évidemment, Mexique. Mais sinon, non, mais...
on est sûr de la direction qu'on prend là ou...
Donc ton club, c'est l'Algérie, en fait. C'est ça qui nous dit.
On est sûr, là.
Non, Mexique, c'est 4 ans après.
On peut pas t'arnaquer, toi.
Non, bah non.
Ah mais voilà,
c'est... Ah mais il a été pris un peu au dépourvu en plus.
Exactement.
Ouais, il a pas eu le temps de se...
Il s'est pris, il s'est pris.
Pareil, il vient, il marche. Il a pris son Uber.
On est allé au Vélodrome ensemble il y a un mois. Il l'a emmené pour voir un OM Toulouse, il était super excité et tout. Au bout de 3 quarts, il fait c'est quoi ce match, il se passe rien.
Non, bon, c'est vrai que c'était un match genre, on dit, t'as eu trop de buts.
Ça va, il y avait 4-2 en plus.
Les 4-2
en
plus.
Non, mais le deuxième match, c'est un drôle.
Le plus drôle, je dis, je pense qu'on va se prendre des tomates avec Daniel, tu vois. J'ai dit, il a pas arrêté de faire des selfies, le mec.
Ah ouais.
Tous les Marseillais viennent le voir en lui disant, ils sont les Marseillais.
Pourquoi viendrait pas?
Les Marseillais. Une grande cote absolue.
Ah, c'est à Paris qu'il a un problème.
C'est
à Paris, il peut pas marcher. Avec ce qu'il a fait cette année, tu vois pas, il est toujours en doudoune. Ah oui, toujours en doudoune. Il a dit cette année, c'est... On va s'occuper de lui là dans 30 minutes, on s'occupe de lui. Reste dans le coin.
J'ai un problème, ni à Marseille.
Prends un thé, t'inquiète pas.
Mets-toi sur le coussin là.
Prends un thé, allons.
Bon, Moundir, merci d'être passé. On te retrouve dans l'RMC Poker Show, bien sûr.
Voilà. Tous les dimanches. Du matin avec un Daniel en pleine forme. Merci pour tout et merci pour.
Merci beaucoup.
Merci Moundir.
Je check à la river.
Ça dépend quand t'es.
3 barrels pour moi.
Moi je serai bête, je vais essayer d'optimiser ma range.
Non, mais l'autre il fait croire à tout le monde, qui sait jouer au poker, Kevin.
Mais c'est toi qui fais croire à tout le monde que tu fais jouer au poker.
Bon, allez, on revient à l'OM, les gars.
terrasse.
Les continuent comme ça, les mecs.
Pablo est là au 32-16 supporter marseillais. Pablo, tu nous entends ?
Et Pablo.
Je vous entends très bien, et vous ?
Salut, Pablo.
Bon. On était sur le cas Rabiot, là. Qu'est-ce que t'en penses, toi ? Ça doit devenir l'enjeu numéro un du mercato marseillais ?
Pas du tout. Pour moi, Rabiot, il doit, s'il prolonge, c'est bien, mais si, pas à n'importe quel prix, quoi. C'est pas parce que il a. Le garçon, moi je suis un peu de l'école de Daniel pour ça, savoir qu'on sait très bien qu'en Ligue 1 ça va le faire, mais qu'après dès qu'il va falloir step up en Coupe d'Europe, c'est pas la même. On sait que c'est pas un mec qui accélère le jeu, c'est pas un mec qui fait des différences en Coupe d'Europe. Donc en fait, le prolonger, oui, mais après si tu le prolonges à un prix exorbitant, c'est quoi le message que tu envoies aux autres mecs de ton vestiaire en fait?
Ce qui est étonnant, c'est qu'encore aujourd'hui, il faille parler de ce genre de truc. On a eu l'exemple au PSG plein de fois. Dans tous les clubs, à chaque fois qu'arrive la Ligue des Champions, la plupart des clubs en France se retrouvent, peut-être même ailleurs d'ailleurs, mais nous c'est principalement les clubs en France qu'on suit, on se retrouve face à cette problématique. Les mecs viennent frapper à la porte, forcément ils veulent l'augmentation parce qu'ils ont participé à l'évolution du club, à la progression. Les clubs augmentent quitte à faire péter leur masse salariale et ça termine à chaque fois en catastrophe. Et mais tout le temps on est là à essayer de retenir les mecs, à essayer de lui dire vas-y reste, on va te filer plus d'oseille. C'est exactement.
Et Pablo Longoria en a parlé dans sa conférence de presse, il a parlé de Valence où il avait explosé le club.
Raison, Thomas. Mais je sais que j'ai raison. Longoria hier a donné la clé et nous aujourd'hui on veut lui voler le trousseau. Il a donné la clé.
Mais Pablo, Pablo, il est supporter de l'OM.
Ouais,
oui. Tu penses pas,
être en sang et faire des conneries.
Tu penses pas, Pablo, que sur le projet, et je vais pas parler de crédibilité de projet, mais sur ton projet OM qu'on t'a vendu sur 3 ans avec 2 Zerbi, et là je trouve que Rabiot incarne quand même une bonne partie de ce projet. S'il part au bout d'un an, on ne sait pas ce que l'Olympique de Marseille va gagner l'année prochaine à ce niveau-là. C'est le leader. Il n'a jamais été vraiment dans une équipe Ligue des Champions, dans ce postulat-là de patron. Moi, je ne suis vraiment pas certain que l'OM arrive à retrouver un joueur de ce calibre-là. Et sur la dynamique de ton projet, ce n'est pas un recul-frein, mais un bon stop quand même.
Parce qu'en fait, à ce moment-là, Pablo, alors, en fait, dans ton argument, en fait, tous les joueurs de l'Olympique de Marseille, ça, en Ligue des Champions,
Greenwood, ça compte plus.
Greenwood, on va se poser la question aussi de son niveau. Rouli, non, mais les mecs derrière. Moi, en fait, je veux pas être dans l'effet inverse. C'est pas parce que pour moi, il faut pas faire de folie pour retenir Rabiot qu'il faut pas tenter de le garder. Rabiot, tu dois le garder. Ça doit être un sujet important.
Passons au dossier suivant parce que on apprend aussi.
Merci pour ta réponse, Pablo.
On apprend aussi ce soir qu'il y a un cas Bennacer aussi à gérer. Donc il y a une option d'achat à 12 millions. Là aussi, il va falloir savoir qu'est-ce qu'on fait.
Moi, je me pose la question parce que physiquement.
Et qu'est-ce que vous faites ?
Moi, physiquement, je l'ai déjà répété, mais pour moi, Ismaël Bennacer ne peut pas enchaîner 3 matchs de haut niveau.
Donc 12 millions, tu prends pas l'option ?
Non, depuis sa grosse blessure à l'AC Milan en demi-finale de Ligue des Champions, où c'était un top joueur.
Ah oui.
Je suis pas sûr que Bennacer, Rabiot, en termes de fiabilité, je sais qu'il va faire 35 matchs. Ah. Et pourtant, Ismaël Bennacer, en 2019, il va donner une Coupe d'Afrique des Nations. J'ai un immense respect. C'est un joueur qui a été très très bon, mais qui a été tué par les blessures. Moi, je me pose la question. Après, si tu veux tenter ce pari, peut-être qu'avec une préparation estivale, peut-être, mais bon,
La réponse, elle est chez le médecin. Hein. Non, mais la réponse, elle est aussi avec Adrien Rabiot. Parce qu'en fait, on parlait de Rabiot juste avant. Adrien Rabiot, non, si tu me demandes à moi, Gilbert, pas du tout, je ne lève pas l'option de Bennacer. Par contre, j'utilise l'argent qui n'a pas été dépensé pour Bennacer pour essayer de valoriser au mieux, sans péter la tirelire si vous voulez, mais pour essayer de valoriser au mieux et de garder Adrien Rabiot.
Je veux pas s'ils peuvent vendre la commanderie aussi pour garder Rabiot. Je sais pas si.
Toi, t'aimes pas Rabiot. Toi, t'aimes pas Rabiot, donc t'es pas objectif.
Ils vendent et puis
juste si.
Ailleurs, merci, je remercie Pablo au 32-16.
Non, mais juste pour conclure par rapport à ce débat-là, si l'OM pouvait s'épargner ce genre de débat, ce genre de dossier qui pourrait être simple de prime abord, je pense qu'il devrait le faire assez rapidement parce que sur les dernières saisons, t'as la sensation qu'il y a quand même un turnover d'effectifs qui est fort, parfois forcé sur les premiers temps. Mais l'OM a besoin d'avancer aussi avec une structure d'effectifs et un 11.
Donc
si on commence à se poser des questions pendant tout l'été sur Adrien Rabiot, je pense qu'il faut close ce dossier le plus rapidement possible parce que il y a quand même la défense Benatia, je pense qu'il est assez intelligent par rapport à ça, c'est que ce genre de dossier devrait être réglé assez rapidement parce que t'as quand même les ailiers, t'as quand même le dossier du neuf parce que on parle de Guiri,
la Ligue des Champions
on parle de Rabiot, de Bennacer, mais pour moi il y a une question sur le neuf aussi par rapport à la Ligue des Champions, les ailiers, les défenseurs.
Mais ça tu l'anticipes pas tant que t'as pas ta Ligue des Champions dans la poche aussi.
En effet.
Les gars, avançons. On conclut sur l'OM, Daniel, parce que tu avais quelques infos à partager.
C'est surtout parce que cette situation-là, elle est parce que l'OM a joué une sorte de carte un an à l'avance en dépensant beaucoup d'argent l'été dernier et même cet hiver en se disant...
Mais l'OM a souvent fait ça dans les années hors Ligue des Champions.
On fait banco pour obtenir la Ligue des Champions et on s'est mis un petit peu limite au niveau oseille. Et c'est pour ça qu'ils se retrouvent dans cette situation.
Il y a eu autant de tensions cette année.
Benacer, on lève l'option ou pas. Et c'est, en fait, on a l'impression.
Je veux dire qu'ils recrutent quelque part à contre-temps. Ils recrutent un peu à contre-temps, un petit peu. Ouais.
Ils sont un peu avec des contrats précaires. Et là, maintenant, il faut solidifier qui on garde, qui on garde pas. Qu'est-ce qu'on envisage pour la Ligue des Champions? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et combien on a comme enveloppe pour recruter du frais? Et est-ce qu'on continue à prendre, à faire des paris sur un mec qui va être prêté pendant un an? C'est ça, la gestion de l'OM sur ces dernières années. C'est ça. C'est pour ça qu'on a ces renouvellements d'effectifs permanents. C'est qu'on n'a pas un gars qui dit, ouais, je signe, je suis pour 3 ans au club, je suis là. Non, après, il va y avoir également le cas Rongier qui est à un an de contrat, lui aussi. Bon, bah,
c'est un enjeu un peu moindre, Rongier. Je sais que tu l'aimes beaucoup, mais pour moi, Rongier, qu'il s'assoit à un taulier, c'est pas forcément normal. Donc,
admettons que tu dises, ok, c'est la fin de l'histoire.
Oui.
Faut le remplacer.
Bien sûr.
Ok. Pour remplacer un mec aussi fiable que lui.
Mais il y a un vrai. Pour moi, il y a un vrai mercato.
Ça va coûter de l'argent.
Pour moi, il y a un vrai mercato de quantité à faire dans cet OM.
Rapidement, parce qu'il faut qu'on parle de Nantes, de Will Steele dans quelques instants.
Sur l'OM, c'était. Oui. Vous avez certainement tous vu l'article ce matin dans l'équipe de Mathieu Grégoire qui revient sur un peu les déclarations récentes, aussi bien de Pablo Longoria, de Benny Benassia, et sur ces. On va les appeler les forces obscures à Marseille.
En interne.
Avec les mots très durs de Pablo Longoria, on va les éradiquer.
Carrément. Parler de maladie. Parle de maladie.
Voilà. Et là,
c'est vrai qu'on dirait que s'il y avait des poux.
C'est pas vraiment dit.
Périmètre gastro, on va.
C'est pas vraiment dit dans le papier. Moi, j'ai trouvé intéressant, très intéressant le papier de Mathieu Grégoire. Je pense qu'il suit l'OM depuis assez longtemps pour connaître comment le club fonctionne et connaître quasiment tous les rouages. Mais je trouve. En fait, ça vous semble pas un peu bizarre cette histoire que ça nous ramène d'ailleurs à la phrase qu'on avait beaucoup critiquée à l'époque de Jacques-Henri Hérault, il y a trop de Marseillais dans ce club. On n'avait pas réellement compris ce que ça voulait dire. Je sais pas si c'est à mettre en rapport avec ce qui a été dit là, mais on a le sentiment que il y a beaucoup de salariés, c'est normal, c'est un grand club, il y a beaucoup de salariés, et que comme ils le présentent en tout cas les deux, le duo de dirigeants. Il y a des mecs qui ont l'impression qu'ils n'ont pas envie que l'OM marche. Comme s'il y avait des rivalités internes, des gens qui n'ont pas eu les promotions qu'ils espéraient avoir.
Des gens en soi, ils fous.
Ils voulaient être nommés à des postes. Je pense que ça peut exister dans beaucoup de clubs. Ce que j'ai un peu moins compris.
À Lyon, c'est le cas, par exemple.
Il y a des contre-pouvoirs, en fait.
Et si je me suis trompé, qu'il appelle pour rectifier, il n'y a pas de problème, c'est qu'il avait l'air de trouver ça pas forcément normal, ou peut-être un peu exagéré, que Longoria et Benatia veulent tout nettoyer. Pour qu'enfin. Il n'y est plus à l'OM, ce qui est vrai. Hein. Moi, je me souviens, je ne sais pas si tu te souviens, on avait fait beaucoup d'émissions, ça date, mais quand Deschamps était entraîneur de l'OM...
Mais ils ont regardé avec Anigo à l'époque, c'était identifié. Alors,
là, on est au paroxysme de ce que l'OM a comme club passoire où toutes les infos sortent et tout. Et moi, je me souviens très bien, on avait fait une semaine, il y avait une crise, il fait explication dans le vestiaire. Oh, 2 heures après, tout ce qui s'était dit dans le vestiaire, c'était dans les médias.
Oui, mais c'est pour ça qu'il part de la commanderie aussi. Pour moi, y a-t-il allé pendant longtemps, la commanderie, c'est une vraie passoire. C'est un centre d'entraînement qui n'est absolument pas adapté pour un club du standing de l'Olympique de Marseille. Moi, j'avais l'école à côté, les entraînements à huis clos, j'arrive à les voir. Donc, c'est un centre d'entraînement qui n'est pas fait pour
un
club.
Tu as trouvé ça dingue, les déclarations? Non. Ou tu les as trouvées trop violentes, les déclarations de
après, les termes, on peut toujours discuter des termes. Mais moi, sur le fond, je suis à 100% d'accord avec lui.
En gros, on va pas garder le type qui fait la gueule depuis 2 ans parce qu'il a pas eu le poste que j'ai donné à un autre qu'il espérait et qui peut. Peut-être me chier dans les bottes en allant parler que dans un club on va y tous aller dans le même sens. Alors peut-être que nous on aura moins d'infos.
Et c'est à l'image de la ville aussi où tout le monde parle avec tout le monde, tout le monde veut savoir ce qui se passe avec l'Olympique de Marseille.
Après, c'est peut-être exacerbé avec l'OM.
Tout est visible. En fait, le problème aussi au centre d'entraînement, c'est que l'entraînement des pros, il est au terrain du bas, visible de tous les bâtiments. Formation. Le directeur, enfin le président avec sa terrasse et le bâtiment des pros. Il y a vu sur tout ce qui se passe. C'est une vraie passoire et du coup, moi je pense que c'est là le vrai problème. C'était un peu un marronnier du côté de l'OM, c'est que chaque information, tout ce qui se passe,
Sofiane pour conclure,
transpire dans la presse et c'est pas normal.
Non, je disais qu'évidemment c'est peut-être exacerbé du côté de l'Olympique de Marseille et ça mais je trouve que de manière générale, c'est un débat qui revient très souvent avec Pablo Longoria et il est parfois utilisé, je pense aussi, pour gagner du temps. pour expliquer qu'il y a beaucoup de ralentissements dans le club, ce qui est peut-être une réalité. Oui. Mais je trouve aussi qu'il l'utilise un petit peu trop pour faire comprendre que si on n'a pas pu avancer, c'est aussi parce qu'il y a ça, il y a ça. Alors, on est dans une ville qui vit comme ça le football. Évidemment qu'il y a des limites à poser. Peut-être qu'il y a une restructuration à faire du côté de l'Olympique de Marseille. Mais si l'OM est un club qui marche avec la passion et qui lui permet d'être un club qui, quoi qu'il arrive, est un club qui fait parler, c'est aussi par ce côté particulier.
Oui, mais si, donc, si ton club va avancer, Sophie...
Allez, stop, les gars, faut qu'on passe à la suite.
Moi, je sais, par exemple, qu'il y a eu... Il y a un malentendu qui n'est pas dissipé du tout avec Jean-Pierre Papin. À un moment, une décision devra être prise.
Après, c'est qui le choix de Jean-Pierre Papin? C'est lui.
Après, Jean-Pierre Papin, c'est une légende de l'OM. Tu peux pas non plus le mettre sur le côté totalement par rapport à ce qu'il représente.
Si tu sais que, par exemple, il a pas un comportement qui est toujours nickel et qui va pas, qui est toujours dans la ligne.
Ouais, c'était sorti d'ailleurs.
On l'a bien vu, ça. Parce qu'il a pas eu le poste qu'il voulait. Jean-Pierre Papin, c'est de la frustration. Il a pas eu les postes qu'il voulait l'année dernière, notamment.
Je suis d'accord. Et donc,
c'est ça que parle Longoria.
Et si jamais il y avait, par ce biais-là, on découvrait que des choses étaient dites à droite, à gauche. À un moment, il faut que tout le monde soit dans la ligne.
Mais c'est pas simple par rapport à ce que représente Papin. Dans la ville, dans le club.
L'intérêt supérieur, c'est quand même celui de
l'OM. On arrête vraiment après Kevin, les gars.
Et comme disait Thomas, moi je connais pas la commanderie, mais si tu le dis comme ça, ça doit être agaçant quand même pour Mehdi Benatia, pour le coach. Il y a un moment, il faut carrément tout restructurer et il faut peut-être même s'entraîner. Je sais pas, moi c'est pour ça qu'ils ont dû aller à Rome.
C'est
pas
qu'ils vont à Rome.
Peut-être réorganiser les terrains, j'en sais rien. Mais c'est vrai qu'il faut quand même qu'il y ait de la sérénité et que tout le monde tire dans le même sens, surtout quand tu es un si grand club avec autant de passion aussi.
Dans un instant, on parle de Nantes, on parle de Will Steele. Qui l'a peut-être fait à l'envers à Lens. On va vous expliquer ça dans quelques instants. Sachez que Clermont a gagné 3-1 à Boulogne, un match aller de barrage.
Grand Henri Sévet.
Ligue 2 nationale.
Boulogne ou Clermont, là, on comprend plus rien.
J'ai fait grandir 17 ans.
Footix, le WFC, ma parole.
Et là où Gilbert.
Tous les critères de Daniel sur ma carte de supporter, tout va bien, ne vous inquiétez pas.
Et là où Gilbert,
donc Clermont devrait se maintenir.
On sent que Gilbert est un homme des télés parce qu'il arrive à se mettre pieds nus sans que personne ne remarque.
Ouais. Le cadrage, important le cadrage.
Bravo, à toi.
Allez, à tout de suite dans la.
RMC, jusqu'à minuit, l'after foot en direct du Maroc.
Gilbert Bribois.
Il est 22h51, Daniel Riolo est là, Kevin Diaz est là, le Winamax FC est là, représenté ce soir par son trio de taulier, Sofiane Zouaoui, Walid Acherchour. C'est pas bon avant.
On est souvent 4-5 en émission.
Non, moi je ne fais pas d'émission.
Sur le planning.
Il y a un moment très important dans le Winamax FC, c'est le quiz. Et ils ont préparé tout à l'heure un quiz pour nous défier, les gars, donc il va falloir être au niveau.
Les auditeurs doivent jouer chez eux aussi.
Je l'ai préparé. Et peut-être que là, les questions, elles ont fuité.
À côté, after.
Ouais, là, les gars, si c'est verrouillé.
Non, c'est faux.
La route. Évidemment que c'est faux.
Respecte pas.
Ouais, enfin, t'as raison. Tu veux que je donne la thématique du quiz déjà?
Vas-y. Ou... C'est tout à l'heure, 23h35. Donc,
c'est foot.
Ça sera. Sur Yoann Manien. Ça sera un quiz sur Ousmane Dembélé.
Ah ouais.
Oh. Sur sa carrière, on va ouvrir plein de tiroirs, évidemment.
On va nous faire 30 minutes de quiz sur Ousmane Dembélé, quand même, rassure-moi.
T'inquiète pas.
Ah bon.
Que ça.
Mais après, on ouvre plein de tiroirs, on va sur les clubs, on va sur les coachs, on va sur plein de choses.
Bon.
Ah, c'est ça, les tiroirs.
Oui. Will Steele, les gars, est annoncé ce soir à Southampton. Bon. On a eu Will Steele il y a quelques jours, qui disait avec une émotion qui n'était pas feinte, hein, évidemment, qu'il arrêtait à Lens pour se rapprocher de sa compagne qui est malade et qui est en Angleterre.
Malade, qui est gravement malade.
Tout à l'heure, on a eu des auditeurs lensois dans Génération After qui étaient en colère, qui disaient mais le gars, quand il veut partir, très bien, qu'il veuille s'occuper de sa compagne, on le comprend tout à fait, mais enfin, à aucun moment il a dit qu'il y avait un club en Angleterre et que c'était possible qu'il rebondisse ailleurs.
Le club en Angleterre, il l'avait déjà à l'époque de Reims.
Non, mais est-ce qu'il l'a fait à l'envers à Lens?
Non, mais il a expliqué. Il a dit qu'il n'arrêtait pas d'entraîner, qu'il allait avoir des sollicitations et qu'il veut retourner en Angleterre.
Enfin, il manquait un bout dans son explication.
Il expliquait en zone mixte, en conférence de presse, il a dit, puisque j'ai écouté la vidéo, il a dit qu'il veut retourner en Angleterre auprès de sa femme. Il n'y a pas plus clair que... Southampton, c'est où?
C'est en Angleterre. Il n'a pas dit je veux entraîner en Angleterre.
Il a dit,
en plus de s'occuper de ça.
Dans le nord de l'Angleterre. Il était précis sur la région.
C'est où, Southampton?
Dans le sud.
Après, chacun se fera sa propre opinion sur...
Ouais, je peux entendre que les supporters.
Sofiane, vas-y.
Je peux entendre que les supporters lensois puissent l'avoir mauvaise, mais moi de l'extérieur en tout cas ça me dérange pas. On est sur un coach qui est quand même dans un projet qui est difficile à mener. Ça faut le préciser. Lens, c'est un club qui a changé énormément d'effectifs là durant le mercato d'hiver. C'est un club malheureusement financièrement qui est dans une instabilité naturelle parce que c'est un club qui a connu les sommets sur les dernières années mais qui a beaucoup dépensé aussi et qui doit revenir à l'équilibre. Je pense que vous avez eu Ougourian plusieurs fois qui vous l'a expliqué dans l'after notamment. Donc moi je peux entendre aussi que pour un coach c'est usant et d'ailleurs on l'avait eu dans le WFC il y a quelques jours.
On a eu la dernière interview
et on avait senti quand même une forme de fatigue et de lassitude, ce que je peux comprendre. Après que le mec, on sait très bien son attache par rapport à l'Angleterre, il l'a jamais menti par rapport à ça.
C'était le rêve de sa vie. C'est
exactement. Et puis là t'as un club Southampton qui va jouer, il me semble, le barrage d'accession en Première Ligue. En tout cas, être en championship en Angleterre.
Sans pitié, vous. Hein.
Non, mais être en championship en Angleterre, c'est un truc supérieur, je pense. D'autant plus pour lui que de rester en Ligue 1 dans un club instable.
Ils ont les moyens pour remonter, je pense.
Voilà, exactement. Assez vite. D'ailleurs, on a vu sur les clubs anglais, quand ça descend, ça remonte aussi très rapidement. Parce qu'il y a une sorte de parachute, voilà, de la première ligue à la championship.
La question et le débat, ce serait quoi? En gros, de lui en vouloir,
de pas avoir tout dit, en fait.
Écoute, moi, je pense que sa situation est tellement particulière et sa vie, malheureusement, compliquée. J'ai réellement pas envie de lui en vouloir. Oui. C'était son rêve d'aller en Angleterre. Il le disait déjà à l'époque de Reims. À l'époque de Reims, il avait un peu manié le mensonge quand même. Vous vous souvenez de cette interview qu'on avait analysée avec le comportementaliste, là, quand il bougeait sur sa chaise et tout. Bon, il avait envie d'y aller depuis très longtemps. Il a pas toujours été.
Alors là, il y a un autre truc que les supporters n'ont pas apprécié, c'est qu'il a dit, mon frère peut entraîner Lens. Genre, moi je me taille, mais
après il a moi Will Steele, enfin nous on était des grands fans de Will Steele. On l'avait vu à Reims à l'époque, on a été voir un match contre l'Orient.
Son frère était son adjoint, je crois.
19 matchs sans défaite, il y avait un vrai beau jeu déployé de la part de Will Steele. Maintenant depuis, on l'a quand même senti dans son caractère.
Il a besoin de se relancer.
On a eu des échos sur Will Steele où c'est vrai que parfois on va dire qu'il est capable de faire 2-3 entourloupes, notamment dès qu'il a des opportunités pour aller en Angleterre, il va aller faire sa palette tactique avec Jamie Carragher, il va aller se mettre en avant.
Donc c'est un opportuniste.
Exactement, c'est un carré.
Après, comment tu peux en vouloir?
Est-ce que tu peux lui en vouloir?
Tu peux en vouloir comment, Sebek, Kevin? Tu sais très bien comment ça fonctionne. Ou du jour au lendemain, tu peux être viré par ton président, tu vois. Donc il y a aussi une forme d'opportunisme chez les coach qui est normal et
donc on va totalement entériner une bonne fois pour toutes. Il y a plus d'affect dans le football.
Je pense qu'il y a plus d'affect dans le football, mais de toute façon ça fait pas mal de temps.
Est-ce que le président a de l'affect quand un mec est là, travaille, fait de son mieux et derrière?
Après Daniel, son lien avec Lens, il est pas non plus.
C'est ce que je suis en train de te dire.
Ma phrase.
C'est juste, il faut le dire dans l'after, il y a de l'affect, Kevin.
Bien sûr, je suis au supporter, c'est tout. Voilà. Il n'y a plus d'affect dans le football. Arrêtez.
Mais l'entraîneur, il a quand même aussi
ironique,
le droit
de préparer. Je suis en train de vous dire, il faut le répéter inlassablement.
Mais moi, Francaise, il avait de l'affect avec Lens. Peut-être qu'il en a un peu moins avec Nice. C'est normal, il n'a pas la même histoire. Mais Will Steele, il a peut-être, je sais pas moi, faudrait lui demander, mais il a peut-être plus d'affect.
L'affect n'empêche pas la franchise. Arrêtez de se raconter des histoires avec ça.
Non, mais ça existe.
Les mecs qui mènent des carrières, ça reste des professionnels. Que ce soit entraîneur, joueur, directeur sportif, qu'on arrête de.
La casette, par exemple. Hein, il est resté plutôt que d'aller en Arabie Saoudite l'an dernier, il a eu de l'affect avec Lyon.
Tout ce que j'espère, c'est qu'il y a des exceptions de temps en temps. C'est tout. Que ça meurt pas, ce truc-là, mais la plupart du temps, il vaut mieux.
On lui souhaite bonne chance à Southampton.
Il vaut mieux.
Exactement.
Ici.
Attention, dans un instant.
Il descend en championship.
Dans un instant, descend, ouais. Le premier avis.
Ils vont remonter en barrage.
Dans un instant, le premier avis du Winamax FC face à l'after. Ça va parler du PSG, messieurs, dames, et vous allez voir, on a un invité surprise qui sera le juge de paix de cet avis. Dans quelques instants. Indice, il a pris quelques lucarnes de Neymar et Messi à l'entraînement. Indice.
Il est là, d'accord.
Ah, Bouffon.
Ah, où est-il?
Il sera là dans quelques secondes. Avec nous, à tout de suite, dans l'after.
RMC, l'after foot en direct du Maroc.
On va regarder le plan numéro 1 de Chelsea pour atteindre ce titre de champion. Déjà, c'est de racheter Fulham. À partir du moment où il rachète Fulham, il rachète les points de Fulham.
C'est quoi? C'est à Will Survive?
Exactement.
Tu mets ta ville? Ou sinon,
non,
pour être plus.
Non, non,
jusqu'à minuit, l'after foot en direct du Maroc.
Gilbert Bribois.
Il est 23h02, quelques extraits des Winamax FC où on voit quand même qu'il y a une grosse.
Ouais, exactement, hors contexte, c'était pas marrant, mais.
Grosse carrière de chanteur.
Il a choisi véritablement les extraits qui nous mettaient le plus.
Paul Vexio, pour être exact.
Salut Paul.
Céline Diaz est là, Daniel Riolo est là, Sofiane Zouaoui, Walid Acharchour. Et donc, on a un juge de paix qui va écouter votre avis et qui est avec nous, qui nous rejoint, qui a été pendant les quatre dernières saisons au PSG, gardien de but. Alexandre Le Tellier est là. Bonsoir.
Bonsoir, merci.
Et merci d'être avec nous.
Merci pour l'invitation.
Il y a eu un échange à la publicité entre Kevin Diaz et Alexandre.
Ah, parce que Kevin a tenté de recruter Alexandre au Saman Lusitano.
Avec le verre de thé, non, on dira pas ce qui s'est passé. Parce que vraiment, c'est un moment Nutella.
Mais que les gens sachent que c'est le meilleur moment de l'émission et qu'il n'est pas diffusé.
Mais alors, faut raconter parce que.
C'était pas dans l'after de.
Il faut faire partager, Walid.
Ah, mais il
lui a proposé
un club. Il cherche un club. Moi, je me suis gentiment proposé, bien sûr, Daniel Riolo.
Non.
Daniel Riolo a bien sûr envenimé la situation en ne respectant bien sûr pas la nationalité.
On lui a demandé à Kevin, est-ce que si Alexandre était dispo pour les Lusitanos Saint-Maur, est-ce qu'il bazardait est-ce qu'il bazardait son gardien actuel? Il a dit non, il faut qu'il rencontre mon coach, il faut que je vois s'il va avec mon style de jeu, notamment sur les relances au pied. Et on était mort de rire.
Bien sûr, il y a une pointe d'autodérision.
Non, t'étais premier degré, Thomas.
Premier degré à moi.
Attention, premier degré sur le fait que peu importe la carrière d'un grand d'un joueur, qu'il était professionnel, qu'il était au PSG.
Tu as un équilibre de groupe à respecter et une historique.
Bazar de personnes.
Ah ouais, ça c'est un DS.
Il y a de l'affect, il y a de la gestion humaine.
Là, c'est ce qu'il a fait, Walid.
Directeur sportif.
Il a gagné le respect de ces joueurs-là.
Si je suis un club de Ligue 2, je vais te voir cette semaine. Je veux te voir.
Je ne dis pas qu'on ne le prend pas. Je ne dis pas qu'il n'est pas meilleur, peut-être, que notre gardien. Ça, je n'en sais rien.
Clairement, qu'il va peut-être se maintenir ce soir.
En tout cas.
Te chercher, Kevin.
Il y a des
process à respecter.
Alexandre, donc effectivement, t'es en recherche de club là.
Oui, depuis la fin de mon contrat avec Paris, malheureusement, j'ai pas trouvé de projet pour moi. Et du coup, là, maintenant, ça fait un peu plus de 11 mois que je m'entraîne avec un prépa pour être en forme pour le mercato d'été.
Bon, et on rappelle que tu as joué aussi à Angers, hein, t'as pas joué qu'au PSG, t'as fait quelques clubs à l'étranger également. Bon, on te souhaite, mais tu sais pas, t'as les envies d'étranger à nouveau
Moi, après, je suis ouvert à toute proposition, donc.
Ligue 2, tu prends?
Mais t'as pas eu de proposition ou t'as eu des propositions qui t'ont pas vraiment plu et donc t'as préféré
Il y a eu des propositions. Après, c'est vrai que forcément, quand t'as une famille et des enfants, il y a aussi à l'étranger des endroits où tu peux pas aller parce qu'il y a pas une école internationale ou quelque chose, donc ça rentre en jeu.
Aller à Rennes.
Ah. Donc voilà, après il y a eu des contacts mais il n'y a pas eu de concret aussi. C'est vrai que là en ce moment le marché français,
normalement il y a un lien PSG Qatar, ça n'a pas marché avec toi?
Ah, j'aurais bien aimé.
Une indirecte,
j'aurais bien aimé.
Mais Alexandre, mais certains vu de l'extérieur peuvent trouver ton choix. Je me souviens qu'on en avait parlé dans le RMC Poker Show, tu étais venu parce qu'il joue au poker et plutôt bien même. Et
mieux qu'Eric Roy.
Ah, je sais pas, Eric Roy, je crois qu'il est encore dans
le tournoi.
Il est encore dedans, c'est incroyable. Oui, c'est vrai qu'on peut trouver ton choix à l'époque de venir au PSG et d'y rester aussi longtemps dans un rôle totalement obscur finalement. T'as été au PSG où il y avait les plus grandes stars, t'étais à l'entraînement avec eux, mais finalement t'as pas joué. Mmh. Et vu de l'extérieur, on se dit comment un gardien qui avait probablement la possibilité, le niveau de jouer en Ligue 1, de jouer, en gros, de jouer, d'être sur le terrain, d'être titulaire, a opté pour cette carrière-là, c'est-à-dire disparaître des radars, mais en même temps d'être dans une aventure absolument incroyable au milieu de toutes ces stars, dans un club qui, par ailleurs, on va pas mentir aux gens, paye extrêmement bien aussi. C'est un choix de carrière.
Ouais, mais après il y a aussi plein de choses qui rentrent en jeu. Moi, le moment où Paris vient me chercher, c'est pendant la période du Covid. À ce moment-là, je me retrouve sans contrat aussi, parce que j'arrivais en fin de contrat dans mon club et puis tous les clubs étaient un peu dans l'interrogation au niveau des budgets, ils savaient pas comment ça allait se passer au niveau du foot. C'est vrai que je me retrouve du coup sans contrat, au chômage. J'ai quand même à cette époque-là, j'avais un petit garçon. Il y a Paris qui vient vous chercher avec du concret, avec un contrat. Enfin, je pense qu'il y a 100% des joueurs qui font le même choix que moi.
Absolument.
Donc, alors oui, j'ai fait l'impasse sur le côté compétition entre guillemets parce que j'allais moins jouer. Mais à côté de ça, j'allais vivre un truc extraordinaire d'être dans une des meilleures équipes du monde avec des joueurs d'une qualité qu'on trouve rarement. Et après, à côté de ça, c'est sûr que même si j'avais ce côté frustration parce que je jouais moins, je pense que la qualité des entraînements que j'ai vécu, ça vaut quand même des matchs de haut niveau. Et beaucoup de personnes pouvaient se dire, ouais, c'est un touriste. 10, mais non, en fait, moi, mon rôle, j'avais un vrai rôle, c'est-à-dire que j'étais dans tous les déplacements, puis à l'entraînement, il fallait que je me donne à 10 000%, parce que si j'étais une merguez, au bout d'un moment, les joueurs, ils allaient me dire, ils allaient aller voir, je sais pas, le manager ou quelque chose en disant, mais il sert à quoi?
Donc moi, en fait, moi. Ça amuse pas les joueurs, même les plus grands attaquants que le PSG a eu, de coller des buts à un gardien qui a pas le niveau. Ils veulent un bon gardien, même.
Et puis moi, c'était mon objectif à chaque entraînement. Déjà, c'était d'être bon. Et puis de les emmerder, en fait, parce que même moi, si de mon côté j'y allais en touriste, pourquoi je fais ce métier, en fait?
Bien sûr.
Je prends des pions, et puis tu prends pas de plaisir. Donc moi, en fait, mon plaisir, c'est bizarre à dire, mais je le trouvais dans les entraînements, parce que bon, voilà, je
pense. Et de participer à la préparation de ces gars-là qui ensuite jouaient des matchs de Ligue des Champions.
C'est un tout, en fait.
Qu'est-ce qui a été le plus impressionnant, finalement? Enfin, c'était quand t'avais les mecs en face, parce que t'as eu toutes les stars, là. T'avais Mbappé, Messi, Neymar, qui venaient de mitrailler. Enfin,
Ouais, après, ressortir un truc impressionnant, c'est difficile, parce que, comme je dis, c'est un ensemble de choses. C'est vrai que je suis arrivé dans des groupes qui étaient, extraordinaires, parce que les joueurs, enfin, voilà, j'ai côtoyé des ballons d'or, le top 5 mondial, des légendes, parce que je pense, par exemple, à Sergio Ramos, quand il arrive, il avait, gagné aussi pas mal de Ligue des Champions. Et puis, entre la qualité des entraînements qui était extraordinaire et à côté de ça, le fait de savoir que tous les ans tu joues un titre de championnat de France, que tu joues le titre en Coupe de France, que tu fais partie potentiellement des favoris à la Ligue des Champions, ça crée tout un truc. Et le fait d'être partie intégrante du groupe dans tous les déplacements, etc. En fait, même si c'est pas toi qui es sur le terrain, cette pression d'être bon aux échauffements, parce que les mecs, il faut bien qu'ils se préparent, etc. T'es dans le truc et t'accompagne tout ce groupe.
Mais t'as jamais été proche d'une cascade de blessures pour que tu joues?
Non. Et pourtant, mine de rien, en 4 ans, je me suis quand même retrouvé pas mal de fois numéro 2. Parce que des suspensions, des blessures du numéro 1, etc. Mais non, deux blessures, non. Non, pourtant, c'est arrivé à mon prédécesseur, Martin Bulka.
Ah oui.
Il avait joué parce que Keylor et Sergio étaient malades ou blessés. Ouais. Donc,
Ronan Le Crom avait joué, nous rappelle Jimmy, par exemple.
En tout cas,
Arnaud Tenas joue, a déjà joué.
Là,
est-ce que la plus grosse connerie de ces dernières années, c'est de ne pas avoir gardé Keylor Navas en numéro 1?
Ah là. Ça, c'est les questions pièges. Non, après, ça, c'est des choix. C'est des choix. Voilà, Didjo, quand il est arrivé, il était en fin de contrat. Donc après, on s'est
la fameuse opportunité de marché de l'époque. C'est ce que vous avez dit.
Une opportunité. On a la réponse, Alex. Soit tu dis ce que tu veux. Je pense que Navas, c'était vraiment un top.
Navas, il était au top.
Sur ton rôle de numéro 3, ça doit pas être facile, mais on se connaît pas, mais il faut être un grand professionnel pour rester dans un grand club comme le Paris Saint-Germain, comme numéro 3. Attention, tu disais que certains pourraient penser que t'étais un touriste. En tout cas, je pense qu'ici, on sait et on est certain que c'était pas le cas, parce que sinon tu restes pas dans ce genre de club. Et quand t'es numéro 3, t'es aussi un appui pour l'entraîneur des gardiens, t'es un appui pour les gardiens, t'es un appui, comme tu l'as dit, pour les joueurs. Et vraiment, non, mais la force mentale, sérieux, elle est énorme. Et de ne pas jouer et de rester comme ça, toujours alerte, toujours prêt à, au cas où, le numéro 1, le numéro 2, le numéro 1 il se blesse à l'échauffement, le numéro 2 il prend un rouge, et il faut que tu rentres. Et franchement.
Bon, ça fait beaucoup d'arguments pour zapper ton gardien numéro 1.
Merci pour ce que tu dis, parce que c'est vrai que y en a beaucoup qui tiennent pas ce discours-là. Et c'est vrai que moi, ma plus belle récompense, c'est qu'à l'arrivée, je suis resté 4 ans, mais j'ai prolongé 2 fois mon contrat. Donc ça veut dire que je devais répondre aux attentes.
Tu servais à quelque chose, alors que certains pensent que. Tu te souviens, Gilbert, de la fois où je pense qu'il devait être 4e gardien? Nantes a fait jouer Jean-Louis Garcia en Coupe d'Europe.
Bien sûr. Il y avait une histoire, encore pour le plus ancien, il y avait Castaneda en fin de carrière qui joue alors que c'est une passoire complète à la fin de sa carrière, bien sûr.
À Nantes contre les Leverkusen en 95, il doit y avoir David Marot blessé.
Loose Warn
blessé. Et Casagrande, non?
Casagrande, ouais, exactement.
3, et ils ont plus de gardiens.
Ouais.
Et Jean-Louis Garcia, je crois qu'il est même.
Il est entraîneur des gardiens.
Cette
anecdote, elle l'a marqué.
Le soir, c'était que
Guingamp. Parler au RMC Poker.
Mais ce match, il est mythique. Mais taper, aller voir le but que prend Jean-Louis Garcia. Jean-Louis Garcia, en plus, on a l'impression.
C'est le coach, là, non?
Oui. Je l'ai eu en coach, en plus.
Mais le pire, c'est qu'il s'est. J'ai l'impression que ce jour-là, il s'est dit. Je vais en plus m'habiller pour qu'on ne croit pas que je suis un gardien.
Il y avait en jogging.
Il y avait eu Mamadou Sakho aussi contre Lorient.
Non, mais c'était rien à voir, Walid.
C'est un joueur qui est
allé. Walid, le soir, n'est un gardien. Il est donc il y a pas de rapport avec.
Il y a pas de rapport, voilà.
En Coupe d'Europe. En plus, c'était l'année où Nantes va être champion de France. Il joue en Coupe UEFA à Leverkusen. Ils prennent 5 buts, ils prennent une valise et Jean-Louis Garcia, je crois, il est responsable de 4 buts sur 5. Mais c'est un gag.
Et voilà, ça t'aurait pu t'arriver, mais je pense que t'aurais fait mieux que lui.
Mais je crois, j'ai pas envie de dire de bêtises, mais Mika Landreau, sa carrière se lance comme ça aussi. Il était, quand il a 17 ans,
il remplace un titulaire. Voilà. Et il a 17 ans, il arrête un péno à son premier match à Bastia.
Après, en contemporain, il y a Karius avec Liverpool en Ligue des Champions.
Aussi.
Ouais, mais il est pas si loin dans les hiérarchies.
Il est deux.
Ouais, non, là,
Karius, c'est encore un cas différent.
Tu te retrouves à aller chercher le quatrième.
Non, je crois qu'il a arrêté.
Turquie,
il a pas arrêté sa carrière?
Ah non, Karius, il était à Newcastle.
Ouais, à Newcastle, mais il a joué aussi en Turquie.
Il a joué en Turquie après Liverpool, il était prêté par Liverpool.
Est-ce que t'es impressionné par Donnarumma? Ce qu'il a montré cette année ou...
Ouais, moi je suis content pour lui. Après, on est proches. Et je suis content pour lui parce qu'à l'arrivée, il fait taire beaucoup de critiques. C'est vrai qu'on.
Mais est-ce que tu trouves que les critiques, parce que c'est bien, tu sais, les joueurs de foot, souvent ils disent, il fait taire les critiques, ou il fait ceci, il fait cela. Il n'y a pas que les journalistes qui critiquent. Les gens au café, les supporters, et même les joueurs se posent des questions et disent « il est peut-être moins bien, il est peut-être ceci ». Et en plus, dans le cas de Donnarumma, le coach l'a sorti.
Même le club, ils ont gelé la prolongation. Ils ont gelé la prolongation au club.
Donc, il y a eu des doutes. Donc, il fait taire les critiques. C'est vrai, très bien, on a tous vu que son évolution cette année était... Mais qu'est-ce qui s'est passé, d'après toi, pour qu'à un moment... Donnarumma, quand même, c'est un gars costaud, on l'a vu avec l'Euro 2021, il est meilleur joueur du tournoi, en Italie c'est une vedette. Franchement, il nous faisait peur. Moi, j'ai l'impression qu'il y arrivait mentalement, il avait pété un truc.
Après, le déclic, je pourrais pas dire lequel c'est, mais je pense que c'est à force de travail aussi, parce que mine de rien, avec toutes les critiques qu'il pouvait y avoir, même si quand t'es joueur, tu veux tout faire pour pas qu'elles te viennent aux oreilles, tu le sais. Ouais. Des proches, etc. Et lui, franchement, dans le vestiaire, à aucun moment il a changé de ligne de conduite. Il bossait, il faisait son travail, etc.
Et quand il voit qu'il met sa phone off devant lui pour un match,
ça fait du bien pour moi et tout.
Ouais, après, voilà, je pense que c'était aussi pour lui mettre un coup de pression à un moment donné. Ouais.
La théorie Singo, tu crois?
Qui la reboot?
C'est lui qui dit je suis plus le même depuis Singo. Je suis un joueur plus méchant, et c'est ce qu'il a dit.
Après, je sais pas. Après, en fait, moi, je trouvais ça dur parce que c'est vrai que quand il arrive à Paris, donc déjà, il arrive quand même, il est jeune. On connaît toute la pression médiatique qu'il y a à Paris.
Non, mais il y en a.
Mais c'est que.
Mec, il vient de Milan quand même, il vient.
Oui, mais en fait, le truc, c'est que quand il a quitté Milan, même quand il retournait en sélection, on dit souvent quand ça se passe un peu moins bien dans ton club, tu pars en sélection, c'est un peu l'air frais. Mais en sélection, les médias italiens le lâchaient pas non plus.
Ouais, c'est vrai.
Donc en fait, le mec, peu importe où il allait, en fait, qu'il soit bon ou mauvais, tout le monde lui sautait dessus.
Et après le match à Arsenal, c'est normal, c'est notre métier, c'est normal de le critiquer. Ce soir-là, c'était
quel match à Arsenal?
Le 2-0.
Les sorties qu'il fait et tout. On est en panique quand même.
Le centre-tir qui est.
Les deux buts qui prennent en poule.
Le match là.
On n'est pas gardien, on sait que c'est un métier difficile, mais Gilbert souvent sourit là-dessus. Mais le mec, il fait 2 mètres et t'as l'impression qu'il sort pas sur coup de pied arrêté. Alors je sais que c'est.
Après, par exemple, là, j'ai pas en souvenir les deux. Ah si, oui, les deux buts. Mais il y en a un, par exemple, où je suis pas d'accord.
Le centre.
Celui qui est hyper bas.
Ouais, le centre tir là.
Il est impossible à arrêter. Il y a tellement de monde devant lui. C'est le coup franc qui est tiré. Il y a tout le monde qui passe devant lui. Il y en a même un qui, je crois, la touche un petit peu. Et en fait, ces situations-là, quand t'es gardien, tu peux pas sortir. Et en fait, après, c'est que du réflexe. Et par exemple, il est un mètre à droite. Il va la sortir du pied, on va dire. Il fait un arrêt.
Mais sur les sorties.
Sortie aérienne, ouais.
Bah là, par exemple, on peut voir qu'il a une très grosse progression là-dessus.
Oui.
Donc c'était bien que. On va dire qu'il peut-être.
C'était un point faible, clairement.
Mais c'était un axe d'amélioration, certain.
Voilà. Après, le dire comme ça, c'est quand même différent. C'est différent.
Oui, bien sûr.
Dire qu'il a un axe de progression au niveau des sorties aériennes, mais tout de suite lui sauter dessus. Ah ouais, c'est un gardien qui sort pas. Il est nul.
Mais parce que à Paris, tu t'attends à avoir quelqu'un de mature et qui est bon dans tout, en fait. Voilà. C'est ça l'histoire.
Et il y a eu un moment, ça devait être à l'automne, quand il y avait beaucoup de critiques autour de tout le monde au PSG. Le nombre de gens qui disaient on fait signer Lucas Chevalier à Noël, il faut immédiatement changer, on gagnera pas la Ligue des Champions, ça se gagne avec un grand gardien. Et effectivement, c'est
Daniel.
Dans le match à Liverpool qu'on s'est dit maintenant le grand gardien il est là et la Ligue des Champions
va peut-être gagner. Je pense que tout ça a été une force pour lui et ça montre une force de caractère aussi.
Absolument.
Alors Alexandre, reste avec nous si tu veux bien 10 minutes de plus parce que tu vas pouvoir arbitrer le débat qui arrive que le Winamax FC veut mettre sur la table de l'Afterfoot. À tout de suite dans
RMC jusqu'à minuit, l'Afterfoot en direct du Maroc.
Gilbert Bribois.
23h18 encore, une grosse demi-heure d'after ici avec le Winamax FC, avec nous bien sûr Kevin Diaz et Daniel Riolo sont là, Walid Acharchour, Sofiane Zouaoui et Alexandre Letellier, donc ancien gardien du PSG. Attention, avis de Winamax FC, jingle.
Comprendre le russe, juste pour voir 2-3 émissions en Russie ce soir.
Gilbert Bribeuf.
Non mais sincèrement.
Daniel Riolov.
Non mais sincèrement.
J'avais complètement oublié ce truc.
Pareil, c'est un peu hors contexte.
Ouais, c'est hors contexte, je me souviens
pas. Très efficace, c'est Jimmy.
Ouais, merci à toi, Jimmy.
Merci, Jimmy.
Alors, vous vouliez parler de Luis Enrique, les gars. On vous écoute et l'after va vous répondre ensuite et Alex pourra arbitrer le débat.
Ouais, notre avis, je pense qu'on partage au WFC, c'est que pour nous, Luis Enrique est le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain. On va respecter, bien sûr, les époques, hein, Juste Fontaine, pour vous, Luis Fernandez, bien évidemment, enfin, Yannick Noah, on sait pas trop. Cette époque-là, mais évidemment les contemporains, notre époque, Tuchel, Emery, Laurent Blanc même, bien sûr qu'on pourrait mettre dans l'équation, mais pour nous, Luis Enrique, c'est le meilleur coach de l'histoire du PSG, quel que soit le résultat de la finale. Je pense qu'il faut prendre déjà en contexte, le contexte tout simplement du Paris Saint-Germain au moment où il arrive. C'est un contexte difficile parce que le cas Mbappé prend beaucoup de place au club, son départ, cette saison qui est un petit peu parasitée par sa gestion à lui. Je trouve que mine de rien, il a su gérer politiquement et sportivement de manière plutôt efficace cette fin d'aventure avec Kylian Mbappé qui a été compliquée. On disait à la fin de cette aventure que, ok, Mbappé c'est 40 buts sur la saison, mais son départ ça poserait pas de problème du moment qu'on démocratise le but, entre guillemets, plus de joueurs vont marquer, ça devrait le faire. Mais ça c'est de la fiction. Il faut aussi l'appliquer, pouvoir l'appliquer. Et le gap entre ça et le faire, c'est quand même exceptionnel. Et il a réussi à le faire. D'un point de vue tactique, sincèrement, moi je trouve que ce qu'il a fait depuis son arrivée, c'est de très haut niveau. Même si à certains moments on a pu douter d'où il voulait aller, d'où il partait, où il voulait aller, je trouve qu'il y a un chemin tactique qui est plutôt clair. L'utilisation de certains joueurs dans certains contextes tactiques, je pense notamment à Vitinha qui l'utilise un petit peu à gauche, parfois en 6, parfois en 8. L'utilisation ensuite de Hakimi qui a permis d'animer le côté droit parce que le côté gauche était beaucoup animé par Mbappé. L'utilisation aussi de Dembélé dès l'année dernière qu'il a essayé de recentrer par moments sur certains matchs et qu'il a rapproché du but. Je trouve que globalement, même si ça ne réussit pas tout le temps, il y a un chemin tactique qui est clair et qui a fait progresser individuellement beaucoup de joueurs de cet effectif-là. Et d'un point de vue mental, parce qu'on parle beaucoup du mental, on parlait beaucoup du mental du côté du Paris Saint-Germain, c'est un club qui a quand même été traumatisé sur les dernières saisons par cet aspect-là, et je trouve que dans sa communication, il a été très intelligent à de nombreux moments, parfois calme avant les grandes échéances, parfois un petit peu taquin aussi avec les journalistes, même si... pour moi, il a un petit peu dépassé la frontière par moment. Mais je trouve qu'il a été très intelligent de ce point de vue-là. Et il a enlevé du poids à cet effectif et à ce club qui était beaucoup parasité par ça. Et je trouve aussi qu'il a enlevé de la possibilité à Nasser Al-Khelaifi, qui très souvent dans ses prises de parole était négatif. Et lui, il a pris vraiment à bras-le-corps le point de vue communication. Et donc, d'un point de vue... sportif et d'un point de vue mental, son travail, il est exceptionnel. Surtout que ce qu'il fait, et là je vais revenir un petit peu sur le point de vue tactique, c'est pas si simple. À chaque fois qu'il fait quelque chose, on se dit, il va sur un chemin qui peut être compliqué. Et ça, je trouve encore une fois que ça apporte un point de vue positif à ce qu'il fait. Donc quoi qu'il arrive, quel que soit le résultat de la finale de Ligue des Champions, même si ça apportera un point de vue encore plus positif à son aventure, tactiquement, mentalement, sur la gestion, le moment où il arrive au Paris Saint-Germain, dans une RQSI évidemment qui engage beaucoup d'argent et pratiquement 600 millions d'euros évidemment, mais où il y a un travail de fond à opérer qui est très très important, peut-être le plus gros travail qui a été fait par un coach sous QSI. Pour moi et pour nous, Luis Enrique est le meilleur coach de l'histoire du Paris Saint-Germain.
Chers amis de l'after, Kevin Diaz, Daniel, il faut répondre.
Répondre parce qu'il est au bout de sa vie, le pauvre, après cet avis.
Il souffle mars.
En fait, le problème, c'est que...
Il était sous le canapé du décor.
En fait,
il ne m'a pas perturbé.
Le problème, c'est comment vous faites pour dire un truc pareil si vous ne connaissez pas les autres.
On les a cités. Mais vas-y, tu peux y aller.
Alors, le débat me semble un peu prématuré parce que pour qu'il devienne le meilleur entraîneur du PSG, parce qu'à partir du moment où tu décroches une Ligue des Champions dans un club qui n'en a pas... Et
je veux dire, ça clôturera le débat.
Ça clôturera le débat. Parce que c'est la Ligue des Champions. Mais... au moment où on se parle et à 10 jours de la finale, il ne peut pas l'être. parce que il va boucler sa deuxième année. Et il y a un entraîneur qui, quand il a bouclé sa deuxième année, l'a bouclé avec une Coupe d'Europe. Et alors, c'est des choses que, en fait, vous avez complètement oubliées. Il n'y a que les gens de ma génération qui vont s'en souvenir. Parce qu'en fait, beaucoup de gens ont gardé une image déformée. Et nous, en France, quand quelqu'un a le tampon de l'étranger, il est toujours plus valorisé. Mais ce que fait Luis Fernandez sur les deux ans, 94-96, il n'y a pas beaucoup. Il n'y a que deux entraîneurs français qui ont gagné des Coupes d'Europe. Je mets pas Zidane dans le lot parce que c'était au Real et sa formation footballistique, elle est plus étrangère qu'autre chose à Zidane. Mais il y a eu donc Gérard Rouillet avec Liverpool et Luis Fernandez. Luis Fernandez, quand il prend le club en 94, il le prend derrière Arthur Georges. Donc après deux demi-finales, un exploit contre le Real qui avait marqué les esprits pour un club qui jouait la Coupe d'Europe de façon épisodique, jamais, il y avait pas eu grand chose. Il prend le club à ce moment-là. Ils font un parcours sans faute en phase de poule de Ligue des Champions. En termes de ballon, regardez le match à Munich, regardez le match contre le Barça où il donne la leçon à Johan Cruyff, qui est le maître de tous les entraîneurs que vous aimez. Les changements de poste que vous flattez dans tous les sens, lui il l'a fait avec Daniel Bravo, il l'a fait avec Paul Le Guen, il l'a fait avec Guérin, il a réussi à faire jouer Valdo et Rai ensemble. L'année d'après, au mercato, Luis Fernandez perd Ricardo, Valdo, Ginola, Wea.
Tu pourrais avoir le même débat avec Luis Enrique et le départ d'Mbappé, qui est quand même un séisme à ce moment-là.
Donc je te le refais. Mm-hmm. Georges Wea, mm-hmm. qui finira Ballon d'Or l'année d'après. Donc son Ballon d'Or, il vaut pour la moitié PSG et pour la moitié Milan. David Ginola, légende du club. Valdo, Ricardo. Tiens, de quoi on parle quand même?
Est-ce que William Max FC a fait une Zlatan?
Donc exactement. C'est exactement
ce que je veux dire. Avant le Qatar, il n'y avait rien.
Vous ne savez pas.
On va reprendre la parole. Pas du tout. On l'a cité, Luis Fernandez.
ESPN classique, là, il va s'arrêter.
Excusez-moi, vous ne pouvez pas.
Fernandez, on l'a cité.
Le problème, c'est que vous ne pouvez pas discuter. Alors, vous n'avez pas vu ça.
Alors, Daniel, est-ce que je peux te répondre juste, Kevin?
Attends.
Mais de quelle manière? Explique-nous l'épisode Yannick Noah, par exemple.
Déjà, là-dessus, vous faites fausse.
Ramener un joueur de tennis pour remobiliser un groupe, déjà, moi, j'ai un peu de problème.
Vous ne connaissez pas l'histoire. Déjà, vous ne connaissez pas l'histoire.
Alors, Daniel,
on va arrêter de discuter.
Non, vas-y, on rigole pas.
Soit vous avez la culture, soit vous n'avez pas la culture. Soit vous écoutez.
C'est faux ou c'est pas faux.
Je vous explique. Donc, déjà, quand tu regardes le parcours de l'OM en 93 quand il gagne la Coupe des Champions, et regarde ce qu'était la Coupe de l'UEFA à l'époque, les histoires de C1, C2, C3, la difficulté pour gagner l'une ou l'autre,
à l'époque, ça n'avait rien à voir. Ça n'avait rien à voir.
Le jeu pratiqué par le PSG dans la campagne 95-96, que ce soit la leçon de football donnée à Glasgow contre le Celtic, contre Parme, regardez ce qu'était le Parme des années 90.
Et Luis Enrique, il a battu qui cette année?
C'est ça le truc.
De quoi?
Cette année, il a battu
les plus grands entraîneurs et les plus grandes équipes en deux ans.
Et ça se termine par la victoire.
Okay, rigole, mais on va respecter.
Vous voulez l'épisode Yannick Noah?
Non, attends. Daniel, on rigole sur Yannick Noah. C'est bon, on a compris.
Non, on rigole pas. Ça a été une réalité.
Il a répété 100 fois.
Est-ce que c'est Yannick Noah qui met la compo technique et qui tactique ce soir-là, qui choisit de jouer à 3 derrière comme ils ont joué, qui dit à Bruno Ngoti va tirer le coup franc, qui place les joueurs comme il les a placés sur le terrain? Parce que le gars de je change la tactique, je change les joueurs,
il a fallu
je
un fais le machin pour remettre un peu d'ordre.
Je fais ceci, je fais cela.
Daniel, après il y a quand même
méprisé Luis.
Non, pas du tout. C'est la plus problème. Je vais te dire moi
il
pour
chauffe,
moi.
Il chauffe là, tu vois pas qu'il chauffe.
Non mais Luis Fernandez c'est une des
pour moi. Pour moi il y a pas de
plus grande légende de l'histoire du PSG.
Luis Enrique, il gagne la Ligue des Champions. Il y a pas de problème. Le débat est clos.
Donc en fait ça se joue un match pour toi.
Moi je suis pas d'accord avec ça.
Donc en fait ça se joue un match
parce qu'en fait tout ce que Luis Enrique a fait. Luis Fernandez l'a fait.
D'accord, ok.
C'est
tout.
Non, très bien. Il a fait la même.
C'est le tour de Walid, Daniel.
Les joueurs, allez, la tactique, tout, il l'a fait, ça.
Daniel, je rigole, hein, je te taquine. Immense respect pour Luis Fernandez et pour tout ce qu'il a fait au Paris
Saint-Germain. Légende numéro un
du club.
Merci.
Il n'y a aucun problème si tu allies.
Joueur formé au club.
Si tu allies joueur et entraîneur. Et puis encore une fois, l'affect et la subjectivité que tu peux avoir sur Luis Enrique et sur Luis Fernandez me dérange un peu parce qu'à l'époque, tu n'avais pas les mêmes yeux. À l'époque, tu n'avais pas le même âge. À l'époque, tu n'avais pas la même place aussi. Et tu le sais très, tu le sais très bien. Et ça conditionne ton avis, que tu le veuilles ou non.
Alors, dis-le avec quelqu'un de cette époque-là.
J'ai travaillé et j'ai beaucoup demandé à des gens de ta génération qui ont connu Luis Fernandez et Luis Enrique, des gens avisés. Hein. J'ai pas pris un mec du coin qui a vu 3 matchs.
Bah, dis-moi
qui. Ils sont unanimes, les mecs qui te disent que Luis Enrique, ce qu'il a fait en 2 ans, c'est bien plus fort que ce qu'avait fait Luis Fernandez.
Qui t'a dit ça?
En démarche. Attends, je vais pas les citer, je suis pas là pour te les citer. Je dis que que je me suis renseigné, et des gens sérieux.
D'avoir perdu les 4 joueurs que j'ai cités en une saison, d'avoir reconstruit une équipe.
Luis Enrique.
Son deuxième passage, malheureusement, il parle.
On a parlé des 2 ans là et des 2 ans là.
Mais tu sais, quand on parle de Luis,
il y a un deuxième passage début des années 2000 aussi, qui est important.
Ronaldinho, encore une fois.
J'ai pas dit qu'il
était Ronaldinho, encore une fois. Ronaldinho, à cette époque-là, je vous le dis, vous qui avez tapé et déglingué Mbappé pour ce qu'il a fait l'année dernière, ce qu'a fait Ronaldinho à l'époque.
Non, mais on parle de résultats.
On a parlé du meilleur buteur de l'histoire du PSG, Mbappé. Ronaldinho, il a rien fait.
Daniel, on parle de rien fait.
Laissons finir, Walid, s'il vous plaît.
Le mec ne s'entraînait pas.
La parole est au Winamax FC.
Moi, je vais te dire honnêtement, c'est en fait l'avis du WFC, là. Mais pour moi, c'est même pas un avis. Pour moi, on enfonce une porte ouverte, en fait. Le mec, ça fait deux.
Apparemment pas.
Ah non, mais apparemment, à part Daniel Riolo. Mais non, mais t'es encore le seul survivant là-dessus. Et puis dans 10 jours, tu vas passer.
Le seul survivant. Non,
mais tu vas passer de l'autre
côté. Déjà, il y a moi.
Non, mais il y a toi.
On est deux.
Mais juste pour terminer.
Va les chercher.
Luis Enrique.
Mais vous avez le droit de briser le passé.
Non, c'est faux.
Luis Enrique, depuis qu'il est arrivé au club,
il a révolutionné.
Non, mais Gilbert, il y a un match qu'il a manqué. Un match. C'est la finale de Ligue des Champions l'an dernier.
Non, la demi.
Non. C'est-à-dire que le seul
match. Le match raté.
Que le seul match qu'il n'a pas donné au Paris Saint-Germain sur les 2 ans. C'est-à-dire que coupe, championnat, Ligue des Champions.
Oui, certains vont te dire encore heureux.
Il arrive après Galtier, où il y a la République des Stars, où il y a une équipe parce que tu parles d'Arthur Georges. Arthur Georges a fait aussi de très très belles choses au Paris Saint-Germain, et on peut aussi dire que Luis Fernandez, quand il arrive, il arrive avec une transition beaucoup plus facile.
Je pense que Luis Enrique démonte beaucoup plus facile.
Moi, je pense que Luis Enrique est un meilleur entraîneur, que Luis Fernandez. Et je vais aller même plus loin. Parce que Luis Fernandez, on l'appelle tout de suite. Dit que Luis Enrique est un meilleur entraîneur que lui. Et je sais que vous avez tous le numéro. Venez, on l'appelle.
Allez.
S'il te plaît. Viens, on l'appelle. Et si lui-même, il dit Luis Enrique est plus fort que moi, alors là, on peut plus rien faire. C'est-à-dire qu'après, à un moment donné.
Attention, ça peut sentir le piège.
Non, mais fin du débat. Et tu as son numéro. Vous avez une très belle attache avec Luis. Il va vous répondre. Faisons ce moment.
Alors, on s'en occupe en coulisses.
Voilà,
j'en appelle donc au juge de paix, Alex.
Il n'a pas connu Fernandez.
Oui, mais il connaît l'histoire du club quand même. Et il connaît
on
le
a
football.
Connu l'histoire, on a connu les joueurs qui ont parlé. Mais les joueurs qui ont parlé de Luis, d'ailleurs, dans le fabuleux documentaire.
Ils ne pensent pas non plus que tous les plus jeunes que nous ne connaissent que
dalle. On a bossé.
Tu l'as pas vu. Oh.
Non, mais
non, faut être sérieux.
Après, dans le documentaire 40 ans d'histoire, il y a.
Revu les matchs. Non, sérieux, je te demande.
Je voulais donner la parole à Alex. Alex Le Tellier. Alors, qu'est-ce que tu veux dire sur ce débat?
Il y a un prisme différent. Je ne sais pas que le débat, il allait être sur toutes les années PSG. C'est vrai que, voilà, comme Daniel dit, c'est des années que nous, forcément, on n'a pas forcément connues parce que 96, j'avais 6 ans. Donc, on ne peut pas se rappeler. Et puis, il faut dire aussi une chose, c'est que le foot, en 20 ans, il a changé.
C'est pas le même.
C'est pas le même.
Il est devenu plus compliqué.
Tu veux dire que les époques sont pas forcément comparables.
Il est devenu beaucoup plus compliqué pour moi.
Tu peux pas comparer,
Dans 10 ans, Zidane sera une pipe. C'est déjà le cas sur les réseaux.
Mais non, mais arrête. Si, réseaux sociaux. On parle de Luis Enrique. Pour toi, Luis Enrique est une pipe, Daniel.
Non.
Si, c'est un entraîneur limité. C'était un loser avant son arrivée au Paris Saint-Germain. En deux ans, un club comme le PSG qui avait un problème mental, qui avait un problème de structure, il a fait progresser énormément de joueurs. Il a piqué Donnarumma. Il a réévalué Ousmane Dembélé qui mettait pas un but en Ligue des Champions, qui a fait une saison à 30 buts.
Miraculeux.
Walid, redescend. Alors, puisque Alex n'a pas connu Luis sur le banc. Toi, t'en as connu quelques-uns, quand même, des gars qui ont eu des beaux parcours avant d'arriver à Paris. Tourelle, Galtier, c'était Pochettino aussi.
Après, c'est sûr que si on parle de l'ère moderne, là, on va dire sur les 10-15 dernières années, si dans 10 jours il ramène la Ligue des Champions à Paris, voilà, le débat il est clôturé.
Exactement.
Pour l'instant, il y a Tourelle qui est allé en finale.
Ouais.
Voilà,
en termes de
travail au quotidien, coach-là, c'est l'exigence même. C'est l'exigence même, c'est le compétiteur né. Le moindre petit jeu, il veut que ce soit, entre guillemets, la guerre sur le terrain pour que les mecs s'arrachent. Et en fait, de prendre cette habitude-là à l'entraînement, tu l'as sur le terrain et c'est plus facile.
Est-ce qu'on se rend compte que.
Est-ce qu'on a tenté d'avoir Luis Fernandez, messieurs, dans la régie de l'afterfoot? On est sur le dossier.
Est-ce qu'il fait que des jingles horribles? Tu peux m'avoir Luis Fernandez pour que je gagne ce débat quand même. Est-ce qu'on me faire ça ce soir?
Fais gaffe, tu sais pas ce qu'il va répondre.
Est-ce qu'on se rend compte.
Oui, il est modeste. Moi, j'en ai parlé avec lui.
Est-ce qu'on se rend compte que.
Je pense que j'en ai parlé avec lui quand même.
Est-ce qu'on se rend compte que ce mec.
Il prépare la réponse de Luis, là.
Est-ce qu'on se rend compte que ce mec a fait de Kylian Mbappé un non-débat? Je sais pas si on se rend compte. Je pense que tu cites énormément de coachs.
Il avait prévenu, en plus.
C'est quand même Là aujourd'hui, c'est la normalité. C'est-à-dire que tu es passé d'un joueur qui plantait une quarantaine de buts par saison à une saison où on ne parle plus de Kylian Mbappé. Je pense que tu prends une dizaine de coachs qu'on respecte ici. Je suis pas sûr qu'ils fassent ce que Luis Enrique a fait cette saison. Ça reste un exploit, quoi qu'on dise.
Mais bon,
Luis Enrique gagne sans Jorge Weah, donc ça vaut pour ton argument Mbappé là.
Oui, mais d'accord, mais
Pagino, ils sont tous partis.
Enfin, la Ligue des Champions quand même. S'il gagne la Ligue des Champions à 17 matchs, Gilbert, en sortant City de Guardiola. Le Arteta, Arsenal,
qu'est-ce que c'est, Weah de l'époque?
Le Liverpool d'Arne Slot.
Il a deux Mbappé dans chaque pied.
Qui?
Weah de l'époque.
Non, oui, très bien. Non, mais je te parle de cette année. Non, mais cette année, gagner la Ligue des Champions, s'il gagne la Ligue des Champions.
Moi, j'ai dit que c'était prématuré, sinon je suis d'accord avec vous, moi. Non,
mais
moi
après, si on arrive avec ce débat après la finale de LDC, on est un peu moyen.
C'était le bonsoir, t'avais raison. C'était le bonsoir.
Moi, je vais aller plus loin.
Après la guerre, c'est ça.
Attention, Kevin.
Les livres d'histoire, tu les ranges en fonction de ce qui s'est passé.
En effet, ce sera mieux.
Moi, j'ai un problème à dire à ce moment-là que ce sera lui.
Kevin Diaz.
Pas pour l'instant.
Moi, je pense que l'issue de la finale ne définira pas qui est. Qu'est-ce qu'a fait
je suis d'accord.
À quel point cet entraîneur a changé le Paris Saint-Germain. Moi, pour moi, je rappelle l'année dernière, Walid a dit fort justement qu'il était à un match de tout remporter, ou en tout cas d'aller au moins jusqu'à la finale, avec 6 poteaux en demi-finale. C'est quand même incroyable dans l'histoire du foot. 6 poteaux sur demi, toi qui es un historien du foot, 6 poteaux sur 2 demi-finales, ça n'a pas dû arriver quand même souvent.
Les gars. Moi, je veux bien. Vous êtes en adoration et aucun problème. Moi aussi, me plaît beaucoup. Mais tu sais combien il y en a des entraîneurs comme ça?
Tu veux qu'on fasse la liste?
Tu veux qu'on fasse la liste de ce qu'était Carlo Ancelotti avant de gagner? Lui aussi, ça a été un loser. Et lui, après, il a tout gagné.
A
tu sais ce qui est devenu la carrière?
J'ai pas trop sortir la. C'est pour ça que je te le dis.
Est-ce que tu sais ce qu'était Hector Cuper entre les années 90 et 2000? Le pauvre, il a tellement perdu. Que lui, il a d'accord, fini.
Il faut qu'on conclue, les gars, pour le coup, j'ai rien.
Hyper à la mode.
J'ai pas parlé plus de foot.
Le foot de dans ce pays, pour vous, les adorateurs, il ne tourne qu'autour d'une seule personne. Les autres n'existent pas sur la planète foot.
C'est pas vrai.
Il n'y a plus personne qui existe dans le monde.
C'est pas vrai.
Klopp, il n'existe plus. Guardiola, il est fini. Ancelotti, c'est un vieux crouton dégueulasse qu'il faut renvoyer au Brésil.
Et Carlo Ancelotti, il ne fait pas ce que Luis Enrique a fait, je pense.
Il n'y a plus rien. Vraiment, le foot, ça n'est qu'une statue et il n'y a plus rien. Et autour, vous tournez comme le vaudour. Le vaudou, vous savez, dans les 10 commandements, quand ils tournent tous autour, là.
C'est bon. Le show a commencé.
Et après, il va descendre avec les tables. Et vous allez être comme ça.
Je peux parler un petit peu.
Le foot, il se résume pas qu'au PSG quand même.
Daniel, s'il te plaît.
Pour clôturer, je vais citer.
Mot de la fin pour Kevin.
Je vais citer.
Il gagne, c'est le roi. Il n'y a pas de problème.
Et bien
voilà.
Tais-toi. 90 minutes, on fait dans ton analyse.
C'est le roi avant même qu'il gagne ou pas.
Et voilà.
En tout cas, au Paris Saint-Germain.
Et moi, c'est 90 minutes. Mais vous, c'était même avant de voir tous les matchs. Quand il a signé son contrat, c'était le roi.
Finalement, on a eu raison.
C'était le roi.
Raison, finalement.
Vous êtes des prophètes.
Bon, allez, fini.
Mais attends, Daniel, j'ai pas pu parler. J'ai perdu 20 secondes.
20 secondes. Mais Daniel, s'il te plaît.
On a tous failli descendre.
Lâche le ballon.
Tous, je vous ai tous
descendu. C'est terminé,
Daniel.
Tous.
Écoute les émissions. Mais tous, vous êtes tous. Et moi, je descends du train. Je comprends plus ce qu'il fait. Vous étiez tous comme ça.
Prends le micro.
Mais là, maintenant, tous la statue, vous êtes tous à
genoux. On reconnaît maintenant.
Tu as parlé
de la compétence.
Et moi aussi, je la reconnais.
Tu reconnais la compétence de Luis Enrique?
Bon. Kevin Diaz.
Tu as parlé de
sa mort.
Loser. Tu as dit qu'il était un loser avant de venir.
Mais il l'était.
Je ne crois pas.
Ah bon, il n'était pas d'accord, il n'était pas.
Mais Daniel, arrête maintenant. Laisse-le finir.
Par contre, sérieux, prends le micro. Juste laisse-moi 20 secondes. Je te le dis, je vais te citer.
10 ans de loserie intégrale.
Non, pas du tout. Je vais te citer.
Tu peux me les citer, les
gars. Arrête!
Ils sont pas avec le Barça.
Les relous, là.
Non, et les 10 ans d'après?
Donne-moi
les 10 ans d'après. Vas-y, donne-moi
sécurité. Sécurité.
Non, mais les mecs qui parlent.
Mais tais-toi. Laisse finir, Kevin.
Vous parlez sans argument. Vous n'êtes que dans la dévotion.
Mais
donne-moi les matchs, s'il te plaît.
Laisse-moi parler.
L'Espagne 2016, 2017, 2018, 2019. Allez, on y va.
L'Espagne, elle a fait quoi avec la sélection?
Laisse-moi parler.
Dites-moi. Dites-le moi.
Demi-finale.
Avec une équipe très moyenne.
Est-ce que je peux parler? Sérieusement,
tu peux, Kevin. Vas-y.
Donc, Daniel, tu m'as parlé de loser. Je ne suis pas du tout d'accord. D'accord, je te cite donc enfin Yannis Antetokounmpo qui disait que gagner ou perdre ça te fait pas toi ça ne fait pas de toi un loser, surtout pas dans le sport.
Avec ça, moi.
Surtout, bah justement, je sais que t'es d'accord.
Mais
je
oui.
suis pas sur le sport de haut niveau puisque t'es quelqu'un qui
aime Marcelo
Bielsa parce
Mais
qu'il
oui.
dit que le chemin c'est important.
Mais oui.
Je suis désolé.
Sacré chemin.
Le chemin qu'emprunte le Paris Saint-Germain de Luis Enrique.
Mais je suis d'accord
là-dessus. Et le chemin qu'a emprunté l'Espagne, championne d'Europe, était un chemin dont les bases ont
été... Mais je le défendais.
Je sais que tu le défendais, donc laisse-moi finir ma phrase.
Ce qui ne me plaît pas, c'est la dévotion. Le foot ne tourne pas autour d'un homme.
Ce n'est pas du tout de la dévotion, c'est de l'objectivité. Je n'ai rien avec Luis Enrique. Je n'ai rien avec Luis Enrique, je te le dis.
Moi non plus.
Je te le dis, ce n'est pas une élimination... au pénalty contre ce beau pays qu'est le Maroc qui nous accueille aujourd'hui, qui me fera dire que Luis Enrique est un loser. Je ne le dirai pas, je ne le penserai jamais. D'accord. C'est tout.
Allez, fin du débat. Alex, merci d'être venu.
Merci.
Bon sympa. Et bah, à très bientôt dans l'after. Hein. Tu reviens quand tu veux.
Et je te citerai ce.
Dans un instant, le quiz, messieurs, dames. On va voir.
Quand vous voulez, vous.
On va voir si Louis Lamax FC va battre l'after. Allez, à tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit, l'after-foot en direct du Maroc.
Gilbert Bribois.
3h42, nous sommes là avec le Willemax FC et ce sera le cas encore demain avec deux matchs demain à partir de 20h, le barrage aller bien sûr entre Metz et Reims, d'ailleurs les ultras de Reims n'iront pas, ils font la grève, et également la finale de l'Europa League demain soir entre United et Tottenham. Tout ça, ce sera avec vous tous,
demain,
les gars,
finale de l'Europa League.
Ouais, belle soirée demain à vivre en, ici au Maroc,
première ligue entre deux mal classés,
ouais, le 14e contre donc. Le 15e.
Et pour Metz, juste leur préciser, le meilleur moyen de ne pas descendre en Ligue 2, c'est d'y rester.
Merci Sofiane.
Voilà, je leur précise simplement.
À 3h43.
Attention, important, vous le savez, sur RMC, depuis quelques jours, on vous fait gagner vos places pour la finale de la Ligue des Champions. Et c'est maintenant ou jamais. Expérience RMC, vol, aller-retour Paris-Munich, l'hôtel avec le petit déjeuner inclus. C'est important de le préciser. Les places pour le stade.
Ils veulent tellement aller, t'enlèves le petit déj que ça passe.
Ouais, je pense qu'ils y vont quand même. Si vous voulez participer, vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG par SMS au 732-16. PSG par SMS au 732-16. Il y aura un tirage au sort pour gagner ses places, bien sûr.
Vous jouez ?
C'est à partir de maintenant. Daniel et Kevin, non, mais toi, oui. Allez.
Ok, je joue.
Le quiz.
Heureux le message quand même.
Le quiz. Non, c'est beaucoup moins. Sérieux. Le quiz par le Winamax FC, c'est tout de suite.
Eh oui, Gilbert.
Monsieur. Alors, on a deux équipes là. L'équipe à la droite.
Oui. Je cache un peu ma tablette.
Oui, à Cherchour. Et l'équipe à ma gauche.
Suffira, je pense.
Non, mais attends, moi, je joue, moi.
Tu joues avec eux.
3 contre 2.
Ouais, 3 contre 2, ça sera largement suffisant.
Très bien.
Ouais, ouais. Quiz Ousmane Dembélé. Évidemment, il est dans l'actualité, peut-être Ballon d'Or, on discutera peut-être. Mais j'ai adapté un petit peu les jeux qu'on fait mensuellement dans nos quiz pour faire une version plus réduite ce soir. Trois jeux, il y aura des questions-réponses, il y aura un jeu des indices et un jeu des enchères, tranquillement, avec une petite mi-temps où tout se peut se passer. Évidemment, pour le meilleur et pour le pire. On y va ?
On y va.
Allez, premier jeu, 10 questions pour chaque équipe. Vous avez 2 minutes pour répondre à un maximum de questions sur les 10. Okay. La première réponse qui m'est attribuée est prise en compte et validée.
Ah, donc faut discuter entre vous.
Mais la première réponse, c'est Kevin, tu me regardes, tu me dis une réponse, je la prends, je la verrouille. Elle est bonne, un point, elle est pas bonne, on enchaîne. Si vous avez des doutes, vous passez et je reviendrai après. En 2 minutes, vous avez le temps de répondre à tout ça. Ok? Priorité aux anciens. Vous voulez prendre la deuxième liste ou la deuxième liste? Il y en a peut-être une plus facile que l'autre.
On prend la liste que tu veux, Thomas.
Eh ben la première, voilà. Quiz Ousmane Dembélé. Hein.
Ah c'est tout. Ah oui, c'est vrai, c'était.
Mais on brasse large. On est bon. Oui. Le chrono, c'est bon, Jimmy. Allez, c'est parti. 3-2-1. C'est parti. Avec quel joueur de champ Ousmane Dembélé a-t-il le plus joué dans sa carrière? Joueur de champ. 159 matchs. C'est un indice. Vous pouvez passer 2 minutes maximum de réponse. Gilbert, c'était pas mal. Hein. On y va ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Vas-y Kevin, moi je te fais.
Il y a une réponse ou pas ?
Busquets.
Bonne réponse. Quel est le coach qui a le plus entraîné Ousmane Dembélé dans sa carrière ? 89 matchs.
89 matchs ?
89 matchs. Il l'a coaché 89 fois.
Il est là 2 ans, donc c'est pas Lucien Riquet parce que ça fait en 2 ans du football.
Xavi.
Non, c'est une mauvaise réponse. Contre quelle nation dispute-t-il son premier match en compétition officielle avec les Bleus ? C'était au Mondial 2018.
Bah, l'Australie.
Bonne réponse. Vrai ou faux, avec 8 buts, Ousmane Dembélé n'est plus qu'à 49 buts du meilleur buteur de l'équipe de France.
Faux.
Et c'est vrai. À deux près, quel est le meilleur classement
de Ousmane Dembélé ? Attends,
mais
à deux près, on enchaîne. À deux près, quel est le meilleur classement ? Quel est le meilleur classement d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or ? Attends, à deux près.
On a le temps, on n'a pas le temps.
Non, c'est que ça tourne, le temps tourne.
Ah
oui, il y a 2 minutes, je te l'ai dit.
Meilleur classement ?
Meilleur classement Ballon d'Or.
À deux près, quel est le meilleur classement d'Ousmane Dembélé au Ballon d'Or ?
5.
Il a jamais été classé. Contre quelle équipe ?
On s'en fout de toute façon, faut aller.
Contre quelle équipe dispute-t-il son premier match avec l'équipe de France ?
contre quoi?
Contre quelle équipe dispute-t-il son premier match avec l'équipe de France?
Ah, c'est pas l'Italie.
Bonne réponse. Quel numéro porte-t-il lors de sa première sélection avec les Bleus? Son numéro de maillot lors de sa première sélection. Mauvaise réponse.
On s'en fout, il faut aller vite.
Il joue. Il joue son premier match de Ligue 1.
Ça, j'avais la bouche.
Il joue son premier match de Ligue 1 avec le Stade Rennais le 6 novembre 2015 à Angers. Qui était le coach du Stade Rennais?
Roland Courbis.
Mauvaise réponse. Qui est le capitaine de Rennes ce soir-là?
On s'en fout.
Non, mauvaise réponse.
On s'en fout.
Contre quelle équipe dispute-t-il son dernier match de Ligue Europa? Aïe, aïe, vous avez le temps de répondre. Sérieux, votre dernier match de Ligue Europa, c'est avec le Barça. Est-ce que vous l'avez?
Dernier, ah, si, 4 je crois, 4.
Et c'était Francfort.
Non, mais juste, ah, mais en fait, la stratégie de Kevin était la bonne.
Il fallait. Oui, il est 2 minutes.
Oui.
Une bonne stratégie qu'il a.
C'est horrible, c'est horrible.
4 points.
Mais
on est d'accord, tu poses plusieurs questions, donc il faut répondre à un maximum.
Oui, mais il faut répondre juste.
Il faut répondre bien, il faut répondre
pas que. Enfin, le but d'un quiz, c'est de mettre des points quand même.
En réflexion, on en avait qui jouer aux semaines des mêlées?
Shakira.
On s'en fout. On pouvait en faire 3 de plus.
Allez,
tu m'appelles, tu m'appelles.
Mais on avait Philippe Montagnier.
C'était Philippe Montagnier.
On n'avait pas les réponses, donc autant.
Il y avait Bousquet, c'est Louis Cédriquet, le coach.
Roland, il a ramené à la guerre.
C'est Louis Cédriquet.
Oui, mais comme on n'a pas le temps de calculer.
Roland, j'ai un gros problème, j'ai mis un à une oreillette.
Oui, mais il ne connaît pas les réponses, Jimmy.
Ouais, bien évidemment.
Allez, c'est parti, on est bon pour le chrono, Jimmy. Deux minutes.
C'est incroyable, lui.
2 minutes pour vous deux sur Ousmane Dembélé. Il marque son premier but en Ligue des Champions avec le Barça face à Dortmund en mars 2018. Quel joueur du LOSC est sur la feuille du match ce soir côté Barça? Quel joueur du LOSC actuel?
Du LOSC actuel?
Ouais.
André Gomes.
Quel est le montant de son transfert?
Kevin.
Selon Transfermarkt, quel est le montant de son transfert de Rennes à Dortmund?
C'est 15 millions.
Non. Contre quelle équipe marque-t-il son premier triplé au PSG? Dembélé est titulaire au Barça lors de la défaite 1-4 lors du 8e aller de Ligue des Champions en 2021 face au PSG. Mbappé marque un triplé pour le PSG. Qui plante le 4e but parisien dans ce 4-1 au
Cardi?
Non, c'est Moskin.
Oh,
vrai ou faux, Ousmane Dembélé est arrivé en retard à la remise de la Légion d'honneur par le président en 2018?
C'est faux.
C'est faux. Dembélé marque son premier but en bleu face à l'Angleterre, victoire 3-2 en juin 2017. Il est 3-2, citez-moi un des deux autres buteurs des Bleus ce soir-là.
J'en sais rien.
C'est deux défenseurs.
Varane.
Non, c'est dommage, j'avais pris un rouge.
Contre
l'Italie dans le match.
Avec Thomas Tuchel, quel est le deuxième coach de Dembélé à Dortmund?
Le deuxième coach?
Ouais, il a eu deux coachs à Dortmund, Thomas Tuchel et un pour un seul match contre le Bayern. Un seul. Eh oui.
Combien de temps dure les 2 minutes?
Terzic.
Mauvaise réponse. À 20 près, combien de matchs avec le Barça a-t-il disputé?
À 20 près.
Ouais, à 20 près, oui, il y en a beaucoup.
C'est
entre 183 et 186, quoi.
250.
Ok, tu veux pas m'écouter, je te donne la réponse. C'était 185. Dembélé marque son premier but. Dembélé marque son premier but face à l'OM avec Rennes lors d'une victoire 5-2 au Vélodrome en mars 2016. Qui est le coach de l'OM?
Bielsa.
Mais non. Oh, il est horrible, non, t'es horrible. Ah si, mais oui, c'est Mitchell. Qui termine meilleur buteur de Ligue 1 en 2015-2016? Qui termine meilleur buteur de Ligue 1 en 2015-2016?
Cavani.
C'est Zlatan Ibrahimovic. On revient à une question. L'année où il débarque.
Mais combien ça dure
le match contre Stuttgart. Contre qui il met son triplé contre Stuttgart? Stuttgart, bonne réponse.
Elle compte celle-là.
Ça fait 4-2.
Vous êtes 2.
3 points.
Non, 2.
2.
Oh,
on est catastrophe.
Et vous avez eu le troll, et ça, vous avez été abominable.
On a été catastrophe.
Allez.
Premier quiz a été remporté au lama par l'after. Pub, et on revient tout de suite pour définitivement les dégommer. A tout de suite.
RMC, jusqu'à minuit. L'after foot en direct du Maroc.
Gilles Darbribois.
Jusqu'à minuit, on est là bien sûr avec le Winamax FC, la suite du quiz. L'équipe de l'after mène 4-2.
Je te donne des nouvelles quand même. Notre quiz, c'est bien gentil, mais Récroix est en train de faire une performance.
On le félicite.
Pour le Battle Royale du Sismix. Pour le mec qui est arrivé et qui n'a pas l'habitude de faire des tournois.
Là, il gagne du temps parce que le temps compte. Alors, pour les cours.
Le quiz, hein.
Alors, à la mi-temps.
On débrief demain avec lui.
Ah ouais.
À la mi-temps. On se repose un petit peu, on essaye de passer les consignes. Ah. Et dans le WFC, à chaque mi-temps de quiz, il se passe plein de choses.
D'accord.
L'équipe perdante va avoir le choix d'un bonus ou d'un malus. Vous allez me dire un chiffre entre le 1, le 2 ou le 3. Et ça va dépendre du bonus qui va tomber dessus.
Vas-y, Walid, je suis éclaté aujourd'hui.
Le 2. Le 2 ouais. Et ben, c'est le bonus du score inversé. Donc ça fait 4-2 pour le WFC. Ensuite, à gauche.
Ça, c'est un scandale.
Mais c'est en fait, ça se passe. C'est un peu le WFC, ouais. C'est un peu les quiz.
À gauche, entre le 1 ou le 3. Le 1 ou le 3?
On vient de se faire.
Il y a 4-2 pour le WFC.
Il y a 4-2 pour nous.
Ah. Ah bon, en fait, il y a une petite mallette qui s'est pas. Voilà, il y a une mallette qui est passée. Hop, 4-2. Ouais. Bonus 1 ou bonus 3 1. Et ben vous allez avoir droit à une question bonus multisport. Si vous répondez, vous avez 2 points. Vous pouvez égaliser. Quelle est l'affiche?
C'est votre bonus. Votre bonus, c'est vous avez une question en plus.
Quelle est l'affiche de Champions Cup ce week-end? La finale de Champions Cup de rugby ce week-end.
C'est Northampton face à Bègles-Bordeaux.
On prend cette réponse?
Ah, on peut prendre que celle-là pour moi.
C'est une bonne réponse, Gilbert.
Voilà. Ah, bravo.
Faites partout.
On sent le.
T'as vu comment le quiz j'ai fait.
Walid, il est. Regarde, il me regarde comme c'est.
Allez, on va.
Dans la vraie vie, on est assez.
Est-ce qu'il y a une équipe?
On n'avait pas organisé ça comme ça.
Est-ce qu'elle a. Ouais. Est-ce qu'à la mi-temps, on fait des changements? Est-ce qu'il y a. Vous voulez échanger un joueur?
Ah non, surtout pas.
Surtout pas, on garde les mêmes équipes.
Kevin, franchement.
Kevin,
prenez Daniel, on prend Sofiane.
Sofiane, ce soir, il est éclaté.
Allez, changement ou pas?
Garde quoi qu'il en soit, parce que je te kiffe malgré tout.
On avance alors.
Merci. J'allais lui cirer le cul et voilà comment il traite.
Daniel, 2 euros dans la cagnotte.
Je vais vous proposer un dernier jeu. On va faire vite. Je vais vous proposer un jeu des indices. Je vais vous faire deviner des joueurs qui ont joué avec Ousmane Dembélé dans sa carrière au travers d'indices. Il y en a 5. Daniel, écoute bien les consignes. Il y a 5 indices. Si vous trouvez au bout du premier indice, vous avez 5 points.
Attends, il faut trouver combien de joueurs, t'as dit?
On va voir en fonction du temps.
D'accord, ok.
Si, je vous donne 5 indices. Si vous trouvez au bout du premier indice, il y a 5 points, etc. Si vous répondez, par exemple, Daniel, tu donnes une réponse précipitée, tu as faux, tu es éliminé. Mais les deux autres peuvent encore jouer pour toi. Ok? C'est tout bon?
Okay, si on doit sacrifier un mec, Kevin. Tu...
Ok, je vous fais deviner le premier joueur. Oui. J'ai joué avec Ousmane Dembélé.
Tout le monde joue là.
Tout le monde joue.
Ah, tout le monde, d'accord. Okay.
J'ai joué avec Ousmane Dembélé dans ma carrière. Premier indice, ça vaut 5 points.
Donc là, on peut prendre si on veut.
Exactement, c'est 5 points.
D'accord.
Okay. J'ai joué avec Ousmane Dembélé, j'ai plus de 150 matchs au PSG.
Sur un mec.
Non.
J'ai. On y va pour le deuxième indice pour 4 points. J'ai été champion de Ligue 2. J'ai été champion de Ligue 2 et j'ai 150 matchs avec le Paris Saint-Germain. Putain, ça, c'est pour 4 points, messieurs.
Ça devrait être facile pour moi, ça.
Putain. Eh oui.
Et il a joué avec Ousmane Dembélé.
Oui, c'est le but du thème. C'est le but du thème. Merci, Kevin.
Champion.
Troisième indice, j'ai marqué l'histoire par une perf de la Ligue des Champions. J'ai fait un truc dans un match de Ligue des Champions, ça n'a jamais été fait. Ça, c'est le troisième indice pour 3 points. Kurzawa, bonne réponse. Bravo, j'ai marqué l'histoire parce que je suis le seul défenseur à avoir mis un triplé.
Bravo, Soso. Bravo.
Ça fait 7-4.
Champion de Ligue 2, où ça, lui?
Avec Monaco.
Monaco en Ligue 2.
Dès qu'il y a des trucs
fantaisistes. On y va. On continue. On cherche le deuxième joueur. Donc là, il y a une stratégie à avoir peut-être, soit pour égaliser, etc. J'ai joué avec Ousmane Dembélé. Mon premier indice, c'est super-héros. Pour 5 points. J'ai joué avec Ousmane Dembélé. Premier indice pour 5 points.
Moi aussi,
Aubameyang. Aubameyang, ah oui. Ah oui.
Je l'ai, Aubameyang.
Le premier qui dit Aubameyang, c'est là.
C'est Spider-Man.
Il n'y a pas de VAR.
Kevin, il l'a dit en même temps.
On l'a dit en même temps.
Allez. Oh, c'est moi tous les jours.
Non, mais
c'est
parce qu'en fait, il a dit moi aussi.
Non, je dis je l'ai. C'est en premier, j'ai dit Aubameyang en premier. Ah bah si. Mais on s'en fout, Kevin.
Allez, on enchaîne.
On s'en fout.
On fait zéro. On fait zéro.
Allez. On annule celui-là.
Il y a 7-4 toujours pour le WFC.
Là, on l'a mis une danse.
Ah bah oui, le score inversé.
Eh, mais c'est comme ça que ça se
passe. Ça continue, ça. C'était pas juste une blague.
Ah non, c'est pas une blague. Allez, on enchaîne. Premier indice pour 5 points. Je suis champion de France. J'ai joué avec Ousmane Dembélé, j'ai gagné un titre une seule fois. Je suis champion de France.
Une seule fois.
Ouais. Avec un club qui n'est plus en Ligue 1 aujourd'hui. Deuxième indice pour 4 points. Naïsna. Le club avec lequel il était champion de France n'évolue plus en Ligue 1 actuellement.
D'accord.
Deuxième indice pour 4 points. Naïsna, c'est mauvaise réponse. Vous êtes éliminé, Gilbert.
Vous
avez balancé ça. 5 points, j'ai tenté.
Troisième indice.
Les points, hein.
Troisième indice pour 3 points. C'est maintenant que ça se joue, Team After.
Ouais.
Troisième indice. Oh, il y a quelque chose. Troisième indice pour 3 points, c'est pas son père. Hein? Naïsna.
Ah ben Gourcuff.
Je l'accepte quand même. Il y a eu triche de Gilbert, mais je l'accepte quand même.
Quoi?
Il a dit Gourcuff, Daniel. Ne fais pas l'innocent, t'as triché chez nous, tu triches ici.
T'as dit Gourcuff. 7-7, donc ça fait.
Si vous avez des est-ce que vous avez des preuves? Est-ce qu'il y a des preuves?
Tout va se jouer maintenant sur ce dernier indice. J'adore, mais j'ai tout truqué pour que ça.
La nuit, c'était pas mal. Hein.
Oui.
Il a joué à Rennes avec Dembélé.
On y va.
Oui.
On va jouer sur ce dernier joueur.
Dire Benjamin.
Tout se joue maintenant. Celui qui va me donner la bonne réponse gagnera ce quiz. J'ai joué avec Ousmane Dembélé, mon premier indice. Je suis le coéquipier qui a le plus joué avec Dembélé dans sa carrière.
On l'a dit tout à l'heure, non?
Non.
D'accord.
Pour 5 points. Pour 4 points.
Hakimi.
Non, mauvaise réponse. Éliminé, Daniel.
Ouais, sacrifié, les gars.
Pour 4 points, j'ai été élu meilleur joueur de Liga dans ma carrière.
4 points.
La Bousquet.
Mauvaise réponse, il reste plus Kevin dans la team de l'After.
C'est quoi le truc à 4 points?
Coéquipier record dans l'histoire de 1 et j'ai été meilleur joueur de Liga. Troisième indice, j'ai 42 sélections avec mon pays. J'ai 42 sélections avec mon pays.
Non,
ça va pas du tout, parce qu'il voit ma tablette, c'est terrible.
Non,
je vais être très surveillant.
S'il te plaît.
Attends.
On enchaîne. Quatrième indice, j'ai 0 but dans ma carrière.
C'est un gardien.
J'ai 0 but dans ma carrière.
Stegen.
Bonne réponse de Walid Acharchou. Et la victoire du WFC dans ce quiz. Bravo. Et le dernier indice était je suis allemand.
On l'a pris.
Magnifique.
Bravo
les copains.
Bravo. Demain soir on remet ça à 20h ici en direct du Maroc avec le Winamax FC. Merci Sofiane, Thomas, Walid.
Exactement. Bienvenue au WFC.
Daniel, demain soir à partir de 20h After Live avec le barrage Ligue 1 Ligue 2 plus la finale de l'Europa League et de nombreux invités encore demain ici en direct de Marrakech. Bonne nuit à tous et à demain soir.
Bonne nuit.
RMC, l'After Foot en direct du Maroc.